Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage, le grand tournoi des journalistes de la rédac qui chaque après-midi s'affrontent en combat singulier au service de votre savoir. Ils sont quatre. Il n'y a qu'une seule couronne de chroniqueur du jour, par conséquent c'est cruel mais arithmétique, il y aura un gagnant et trois tocards qui repartiront leur chronique entre les jambes, comme on dit dans le jargon, au terme d'une émission spéciale gastronomie aujourd'hui qui s'annonce aussi excitante que la lecture d'un menu par Gérard Darmon.
Ce sont deux cuisses de chevreuil fermes et délicatement écartées, fourrées de crème épaisse, mouillées de vin blanc chaud qui ruisselle sur les parties charnues de la bête.
À mes côtés, déjà à moitié évanouie puisque la bouffe et la voix de Gérard Darmon sont les deux choses les plus érogènes pour elle, je vais réanimer Eva Roque. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe à la télé sur les écrans ce soir. Mais d'abord accueillons notre invité du jour. Pour une spéciale bien vivre et mieux manger, qui était le mieux placé? Qui était le plus légitime pour nous accompagner cet après-midi? Alors non, pas Olivier Pouls. Pas Olivier Pouls, c'était un peu gros, vu qu'il bosse déjà avec nous tous les jours. Mais on n'a pas tapé trop loin non plus, puisque c'est notre collègue Laurent Mariotte qui s'apprête à passer l'après-midi avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Bon, on
adore le générique, Champs-Élysées.
Pour vous, on a mis le paquet.
On ouvre les portes et les voitures.
Ah, bah, évidemment. Alors les téléspectateurs de TF1 vous connaissent bien, je dirais même qu'ils ne connaissent que vous. Quant aux auditeurs d'Europe 1, ils vous retrouvent chaque samedi dans la table des bons vivants à 11h. Table des bons vivants, voire des très bons vivants, où même la grande patronne d'Europe 1, Constance Benquet, vient parfois taper une paupiette.
Alors, c'est normalement, vrai. Moi, j'aime pas les paupiettes. Et alors là, j'ai quasiment fini ma paupiette. Et j'ai fini mon verre de vin.
On embrasse Constance, bonne vivante aussi. Alors, on va parler de vos émissions,
paupiette
de votre passion.
De Pierre Gagnère. Hein.
En plus, forcément, même quand on n'aime pas la paupiette.
Ah oui,
là,
non, on est obligé d'aimer. Là.
On va parler de ce livre. Alors, je le dis sans flagornerie, pas parce que vous êtes un collègue, mais vous me l'avez offert l'année dernière déjà, vous avez cette gentillesse. Et vraiment, c'est fabuleux. C'est-à-dire que quand on est, comme moi, un peu novice en cuisine, il y a une recette par jour, ça s'appelle « Mieux manger toute l'année ». Là, c'est le modèle 2020. Et tous les jours, on n'a pas à se fatiguer, on regarde la recette et hop, on la suit, c'est ça que j'adore. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers champions du jour.
C'est ça que j'adore, c'est un slogan.
C'est beau, hein.
Je vais vous dire, Charrier, c'est pas chaud, il faut la ramener. Vous allez voir pourquoi. À ma gauche, s'il y a quelqu'un qui se fout totalement du fait qu'on célèbre aujourd'hui, 5 février, la journée mondiale du Nutella, c'est bien lui. Il n'y a qu'à le regarder pour s'en convaincre. Ce type-là ne fume pas, il ne boit pas, il doit se nourrir exclusivement de graines de lin germées. Ah, c'est quand même, il y a bien quelque chose qui vous donne faim.
Pamela Anderson.
Bien. Alors, Anissé Mbida, bonjour. Vous êtes notre expert nouvelle technologie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, vous allez nous dire, Anissé, si oui ou non, on va se retrouver à bouffer de la viande artificielle bientôt. Ce qui est le cauchemar d'Olivier Pouls.
Mais vous allez voir, c'est pas un cauchemar. Hein. Je pense que ça pourrait sauver certains des aliments de nos plats préférés. Ça pourrait même réconcilier Eva avec le fromage.
Alors ça, si vous réussissez à réconcilier Eva avec le fromage...
Elle aimerait le fromage, Eva?
Non.
Ah bon?
Non,
il faut toujours, dans toutes les recettes, il faut lui enlever le fromage. C'est insupportable.
Non.
Si vous l'invitez à dîner, c'est insupportable.
Je suis inquiet.
Vous allez voir, ça va permettre de découvrir de nouvelles saveurs également.
À ses côtés, Laurent Mariotte, sur le plan physiologique, il est un peu le double inversé d'Anissé Mbida.
Non.
Blanc comme un cul d'anglais à Brighton, naturellement prémuni contre la noyade grâce à une astucieuse bouée intégrée au niveau de la taille, Mathieu Charrier déteste les graines de lin germées et adore le Nutella, à tel point que j'ai été obligé de passer des consignes à Claire Dutronc qui nous ravitaille en sucrerie durant l'émission.
Et vous nous fassiez quand Claire reviendra avec un panier bien garni.
Je lui demande un pot au chocolat, mais elle m'a fait un doigt d'honneur.
Ton régime, mon grand, j'ai passé des consignes. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour, vous savez que j'ai perdu 7 kilos récemment.
Non, c'est vrai que vous êtes fin comme un roseau, mon grand.
Ah, il est en pleine forme.
C'est vrai. La couva déterminée.
Vous êtes
le monsieur cinéma d'Europe 1, Mathieu, cet après-midi, vous nous parlez des Césars qui arrivent dans quelques jours sur fond de polémique cette année.
Ah, seulement qu'on puisse dire, vous avez sûrement entendu parler de la polémique sur les nominations de Roman Polanski, il y a aussi le président qui a appelé à démissionner, enfin bref, c'est le bazar, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair.
Merci Mathieu Charrier, je crois que tout est dit, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
On est très heureux de l'avoir comme invité et très fier de l'avoir pour collègue, c'est vrai. Quand on est comme lui, l'héritier d'une grande chaîne hôtelière, on pourrait se laisser aller à l'oisiveté. Et non, contrairement à Paris Hilton, Laurent Mariotte a choisi de travailler pour gagner sa vie. Et c'est tout à son honneur. Alors,
je suis un mormon, c'est une famille de mormons les Mariotte. Hein. Donc attention à ce que vous dites.
Alors, cher Laurent, je suis archi nul en cuisine, je crois que le monde autour
de
cette table
le sait. On vous écoute, on a bien vu, on est au courant, ça. Je crois que la France est au courant.
La France le sait. Heureusement, vous avez publié pour moi et pour tous ceux qui sont dans mon cas Mieux manger toute l'année, 365 recettes, mes conseils, mes astuces. Alors, c'est très simple. Chaque jour, vous ouvrez, par exemple, le 3 avril, on mangera des jeunes poireaux sauce gribiche. C'est comme ça, c'est
oui,
écrit.
Exactement.
C'est Laurent Mariotte qui l'a dit. Voilà. Mais c'est plus simple, finalement.
Et c'est simple, et c'est bon marché. Comme on dit, ça coûte pas cher. Et il n'y a pas que des recettes, il y a plein d'astuces aussi pour faire ses courses, en fait. Voilà.
Alors, pour ceux d'entre nos auditeurs qui se disent, mais on n'a pas le temps, on est fatigué après une journée de travail. Qu'est-ce que vous leur dites ? Quel est l'argument massue
Je
pour dire
Je dis souvent que c'est un faux
cuisinons.
Prétexte, le manque de temps. En fait, on a toujours une demi-heure à glander sur son canapé, sur les réseaux sociaux, sur son smartphone en rentrant à la maison.
On remplace Instagram par...
Non, mais qu'il faille décompresser, on est d'accord. Mais accordons-nous une demi-heure par jour en cuisine. C'est pas énorme une demi-heure, mais je vous assure qu'en une demi-heure, on peut en faire des choses. Peut-être qu'on n'a pas le temps de cuisiner tous les jours, je suis d'accord. Mais moi, j'ai fait ce livre, en fait, pour qu'on garde un lien avec le geste de cuisiner au quotidien. Et des trucs hyper simples. Moi, je suis pas un chef, hein. C'est une recette de tous les jours. Donc, ce que vous dites, là, les poireaux, comme ça, cuit à la vapeur avec une sauce gribiche, c'est fait vraiment en une demi-heure, cette histoire.
Il y a cette idée que chaque recette est... Elle est réalisable par quelqu'un qui n'est pas un.
Ah oui, oui, quelqu'un comme vous. C'est-à-dire que voilà,
je
vous ai regardé.
Quelqu'un normal.
Non, mais l'idée, c'est qu'en semaine, on va prendre des recettes qui vont effectivement assez vite à réaliser et à cuire aussi. Et en week-end, on se lâche un peu plus
voilà,
avec le bourguignon, la blanquette de veau, des choses un petit peu plus longues. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pas la préparation qui est longue, c'est la cuisson. Et pendant que ça cuit, on fait autre chose de toute façon.
Et l'autre argument, c'est souvent de dire, mais ça coûte cher la nourriture aujourd'hui, de cuisiner, etc.
Attention, il va ne dites pas n'importe quoi. S'énerver, Laurent.
C'est tout le contraire.
On parle des préjugés qu'on a autour de la
cuisine.
Mais
vous avez raison, ça coûte moins cher. C'est pas moi qui le dis, là, pour le coup, il y a eu des enquêtes de 60 millions de consommateurs et d'autres magazines. On prend un plat préparé, par exemple. Vous prenez, je sais pas, des Saint-Jacques avec une fondue de poireaux dans le plat préparé. Vous prenez les mêmes ingrédients, vous faites la même chose à la maison, ça vous coûte entre 2 et 3 fois moins cher. Donc ça, c'est une réalité. Ouais.
Anis Mbida.
Mais est-ce que les recettes sont scientifiques ? Parce que moi, j'ai un problème avec les recettes, c'est qu'on dit qu'il faut saler, poivrer. Réchauffer à feu doux, mais feu doux c'est combien de degrés salé c'est combien de sel? Moi j'ai un peu de problème avec la cuisine.
Vous n'avez jamais cuisiné en fait?
Bah non, moi je suis un super handicapé, encore pire que
Mathieu. Vous savez quoi, il faut goûter, tout simplement, c'est votre palais qui va vous dire
goûte
si c'est tourné, bien sûr.
Et puis on se dit, là je rajoute un peu de sel.
Non, mais goûte, c'est cru.
Il faut, voilà. Non, mais en cuisine, il ne faut pas avoir peur de se gourer. On a le droit de se planter, on a le droit de se tromper. En tout cas, il faut oser. Et une recette, ce qui est bien avec le salé, c'est qu'on peut en général toujours la rattraper par rapport à la pâtisserie qui est très technique et très précise.
Mathieu Charrier.
La grande frustration dans les livres de cuisine, c'est que souvent, il faut l'épice qu'on n'a pas, la petite herbe, machin,
il
truc.
Il faut redescendre.
C'est toujours des trucs. En fait, on se dit, mince, ça, je l'ai pas.
Je le dis, on achète une bonne fois pour toutes la bonne gamme d'épices, la noix de muscade, le sel de céleri,
expliqué.
Si on veut, effectivement.
Au début, vous nous dites,
je
voilà,
le raconte,
ça,
ce que j'appelle les basiques du placard. Quoi, voilà. Et moi, j'aime pas non plus, effectivement, avoir trop d'ingrédients dans les recettes parce que c'est compliqué. Donc, mon postulat de départ pour chaque recette, c'est un produit de saison. Et ensuite, on fait avec les ingrédients du placard. Et on peut même faire ce que j'appelle de la semi-cuisine. Pareil, il faut se décomplexer. Un produit frais, c'est un produit de saison, vous avez l'air très inquiet.
Non, ça me plaît, la semi-cuisine.
Oui,
je pense que je pourrais devenir un grand chef de la semi-cuisine.
Et une boîte de thon, une boîte de maïs, vous faites une soupe de maïs avec une boîte de maïs, par exemple, que vous allez upgrader, comme on dit, avec un petit peu de coriandre fraîche et puis quelques épices, c'est tout simple. Et la boîte de thon qui peut faire une sauce pour les pâtes, enfin, faut pas avoir peur, faut pas avoir de complexe en cuisine.
Bah. Je n'ai pas peur, je suis juste nul. Il est le monsieur gastronomie d'Europe 1, le N+1 de Pouls, en somme. Laurent Mariotte est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Longtemps, en gastronomie, ce sont les Anglais qui ont eu le monopole des plats bizarres.
Qu'est-ce que c'est ? Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. C'est délicieux. Delicious.
Désormais, il y a pire que les Anglais. Les scientifiques qui veulent nous refourguer de la barbaque cellulaire et du lait artificiel. Comment et surtout pourquoi ? Deux questions auxquelles répondra notre expert high-tech, Anis Mbida.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Satisfaire la curiosité légitime de vos rutilants cerveaux sans pour autant snober vos zygomatiques, voilà l'ambition quotidienne de l'équipe est sauvage. 2 heures d'une joyeuse empoignade entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se déchirent pour une couronne elle-même déchirée. Le paradoxe est savoureux. Laurent Mariotte, notre invité, l'aura noté. Et justement, Laurent, voici venir notre premier concurrent du jour. Un concurrent qu'il vaut mieux éviter de vanner. Vu son rapport poids-puissance, si j'étais Mathieu Charrier, je ne me risquerais pas à me foutre de sa gueule. Alors, c'est vrai, lundi, Oxmo Puccino, au moment où il a choisi son vainqueur au hasard sur le trombinoscope qui était devant lui, l'a appelé.
Je sais ce que je vais faire. C'est tombé sur Anisette.
Mais Mathieu, en termes de carrière, vous n'êtes pas Oxmo Puccino. Alors, je vous propose de l'appeler Anissé et non Anisette, à mon avis, si vous voulez terminer entier cette émission. Anissé Mbida.
Ça aurait pu être Anisette.
Anisette, on n'était pas loin. Anissé, avec vous, on s'interroge sur ce qu'il y aura dans nos assiettes demain. Toujours du lait, toujours de la viande. mais sans lait et sans viande. Quel est donc ce prodige, Anissé ?
C'est ce qu'on appelle l'agriculture cellulaire. Alors, ça n'a rien à voir avec la viande végétale. Hein. Vous savez, les imitations de viande végétale. Mm-hmm. Là, on parle de vraie viande animale, mais cultivée en laboratoire, un peu comme on cultive des cellules, vous savez, des cellules de peau pour faire des graisses.
Oui,
c'est la même chose. Alors, comme ça, c'est pas très ragoûtant quand on vous le raconte. Hein. C'est pas très glamour. On préfère voir une charolaise galoper dans les champs.
Hein, et souvent, la charolaise galope, d'ailleurs. Vous connaissez bien les animaux. Hein. Elle est parfois au trot.
C'est ça.
Et puis parfois,
elle se cabre.
Elle voit un train, hop, elle se cabre et elle va au galop parfois.
C'est ça, moquez-vous, sauf que la charolaise après, qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, on la passe à l'abattoir, on la zigouille à l'abattoir.
Alors en ce moment, mais
on préfère ça au laboratoire. Et en ce moment, vous savez qu'il y a la honte de l'avion.
Ben, ça vient de loin. On a un mode d'élevage et on vient de l'élevage
mais
et quand même.
Mais évidemment, voilà, évidemment. Mais en ce moment, il y a la honte de l'avion. Il y a aussi la honte de l'avion qui commence à arriver avec les bouchers.
Vous allez vous fighter.
Mais non, au contraire, on est raccord. Les bouchers qui se font agresser aujourd'hui. Et donc, on a trouvé une technique avec cette viande cellulaire de se dire, bah tiens, on va faire exactement comme avec le diamant de synthèse. Vous savez, les diamants de synthèse,
il est très réussi.
C'est exactement le même chimiquement qu'un diamant traditionnel, sauf qu'il n'y a pas tous les artifices et tous les problèmes d'exploitation, les diamants du sang, comme on dit. Donc là, on n'aura plus L214. Ouais. Il n'y aura plus ces associations parce qu'il n'y a pas d'animal qui est assassiné avec ces systèmes.
Mais comment ça marche ? Attendez, expliquez-moi.
Bah, vous prenez une cellule souche.
Vous savez, une cellule souche de quoi ? Parce qu'en termes de viande, Laurent Marais nous le dira, il y a différentes viandes qui
sur une côte de bœuf. On va y venir. Vous prenez une cellule souche.
De blonde d'Aquitaine.
De blonde d'Aquitaine qui galope et qui se cabre.
Voilà.
Ensuite, c'est un système d'élevage qui fait se reproduire ces cellules en laboratoire.
Oui, on les multiplie et tout ça, mais ça coûte très cher aujourd'hui.
Ça coûte très cher, mais les prix sont en train de baisser. Mais surtout, l'intérêt, là où je veux en venir, c'est que comme on arrive aujourd'hui, on est capable de faire exactement la même viande que la blonde d'Aquitaine. Ou que, comment on les appelle, le bœuf de Kobe aujourd'hui,
qui est extrêmement cher. C'est possible. Il y a, par exemple, dans le bœuf de Kobe, il y a du gras qui se met en fonction de. Dans chaque animal, c'est différent.
On va avoir la même viande uniforme.
Si il est massé à la bière, le bœuf de Kobe,
plus,
vous imaginez
comment
si
vous
admettez qu'on est capable, quand vous avez une brûlure, qu'on est capable de vous refaire exactement votre peau et pas celle de votre voisin, vous pouvez admettre qu'avec le même principe, on est capable de prendre une cellule de bœuf et refaire un morceau de viande de bœuf.
Et le goût, alors.
Avec le même goût, votre peau, quand on vous la greffe, après une brûlure, c'est la même, elle a le même goût, je vous rassure.
Oui, ça vous fait peur avec ce regard.
C'est pas un problème technique, technique, comme vous dites, c'est un problème de texture et un problème de goût aujourd'hui que l'on a.
Bah, voilà. Il y a peut-être un problème de prix aussi, ça coûte combien pour l'instant ?
Alors, les prix, c'était 300 000 euros le steak en 2013, donc hors de prix.
300 000 euros le steak,
aujourd'hui, on est à...
La corne est
70 euros le kilo, mais dans deux ans, on pense descendre à 8 euros le kilo. L'intérêt, c'est aussi, vous voyez le foie gras par exemple, on adore tous le foie gras autour de cette table, mais il y aura peut-être bientôt plus de foie gras parce qu'il y a un problème de maltraitance animale avec le foie gras. Et bien avec ce système, on va pouvoir faire du vrai foie gras, du véritable foie gras, sans avoir besoin
de maltraitance partout, hein, mais voilà. Après,
j'entends bien.
C'est culturel aussi, voilà, mais c'est vrai.
J'entends bien, mais il y a plein de gens qui vont s'indigner de la façon dont on élève certains animaux, etc. Je peux donner un autre exemple. Le gibier, les bronchies chevalines ont disparu parce que justement il y avait cette histoire de bien-être animal. Le gibier, on ne le mange pas parce qu'il y a le problème de la chasse.
Avec les lapins, de moins en moins, les enfants mangent plus de lapins.
Oh, on est obligé, mais alors ça c'est pas bien. Moi, je fais croire que c'est du poulet. Je dis pas que c'est du lapin.
Mais
c'est dégueulasse.
Ça marche.
Ça marche très bien.
L'intérêt de cette viande cellulaire, c'est qu'on va pouvoir prendre du gibier, on va pouvoir refaire sans avoir de problème de maltraitance animale. On pourrait même, je sais qu'il y a des Australiens qui commencent à faire du steak de kangourou, ce qui paraît c'est extrêmement bon le steak de kangourou, mais on va pouvoir le faire avec des cellules du steak de girafe par exemple. Apparemment c'est très très bon la girafe. On va pouvoir faire tout ce genre de choses. Du carpaccio de tortue du Galapagos. Pourquoi pas ? Hein, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a des problèmes éthiques, il y a des problèmes de on n'a pas envie de manger certains animaux.
Le goût, surtout.
On veut goûter.
On va perdre le goût, je pense. On va pas se rapprocher d'une viande charolaise bien élevée, bien engraissée, avec le persillé qu'on aime tant, cette répartition de gras et de mecs dans la viande. Donc, effectivement, quand on en parle comme ça, ça fait rêver, mais on est loin du goût. Il faut manger moins de viande, mais mieux. C'est tout simplement la même chose.
C'est ce que je pense.
Moins, mais mieux. Voilà, mieux élevé. On a de très bons éleveurs en France. Et voilà, je pense qu'on a encore un petit peu de temps.
J'ai quelque chose à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on faisait de la bouillie de viande, on appelait ça le Frankenburger, donc ça ressemble à une espèce de truc qui ressemble à rien, parce qu'on a fait laisser les cellules. Aujourd'hui, on a perfectionné les systèmes, on est capable de faire le gras, les nerfs, etc. Et on est capable de faire en 3D. Alors, c'est pas très beau comme ça,
c'est moche.
C'est pas très beau, mais le résultat est parfait, c'est-à-dire qu'on a exactement la même viande. Donc on peut avoir du bœuf de Kobe, on peut avoir la bonne blonde d'Aquitaine avec. C'est l'enjeu, hein. Si on, ça se vendra
pas. Mais on n'aura pas l'os, on n'aura pas la côte de bœuf, hein. Vous allez pas reproduire l'os, pas encore tout de suite.
Non, vas-y, on va te trouver un truc en plastique.
Que qu'on change notre comportement par rapport à l'animal, effectivement, qu'on soit attentif au bien-être animal, c'est très important. On est allé trop loin dans l'élevage intensif, ça on est entièrement d'accord. Mais en tout cas, on a encore de beaux éleveurs et surtout de beaux savoir-faire en France pour pouvoir manger de la viande. Qui a brouté, quoi.
Et qui a galopé sur tout
et
ça
qui est important.
Merci Anicet Mbida, le défenseur des animaux. Mathieu Charrier, allez, soyez beaux joueurs. Ça vous fait quoi de retrouver le talent incroyable d'Anicet Mbida ?
C'est étrange parce qu'on pensait qu'il était mort.
Merci. Europe 1. Vous venez de l'entendre, parmi les journalistes d'Europe 1, c'est un des plus machiavéliques. Deux choses l'obsèdent dans la vie, la peinture à l'algue et la victoire. Pour l'emporter, Mathieu Charrier est prêt à tout, y compris à piétiner un adversaire déjà au sol, comme mardi dernier ce pauvre Emmanuel Duteil et sa chronique foutraque sur la monarchie luxembourgeoise. Il avait déjà un pied dans la tombe, Charrier s'est posté à bout portant et bam.
Oui, je pense que vous faites tous comme moi le matin, vous regardez l'actualité de la famille grand-ducale sur leur compte officiel. Et là, scandale à la cour grand-ducale, il y a un rapport parce que, semble-t-il, eh bien, il se racontait que la grande-duchesse était méchante.
Non mais il est en train de nous faire 3 minutes sur la grande-duchesse qui n'est pas gentille, quoi.
Il est comme ça, Charrier. Il ne pardonne rien
c'est
à ses adversaires.
C'est l'avait piétiné, ce pauvre Emmanuel Duteil.
C'est pas faux, je vous ai un peu aidé. Les Césars du cinéma 2020, l'édition de la polémique. Voilà en revanche un thème à la hauteur du talent de Mathieu Charrier, dit l'ordure magnifique, qu'on retrouve juste après The Chainsmokers et Coldplay, Something Just Like This sur Europe.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Rire et découverte, galéjade et curiosité, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures pour rentrer chez vous plus détendu, mais aussi plus cultivé, grâce à la sagacité de nos journalistes et aux confidences, parfois involontairement potaches, de notre invité. Aujourd'hui, c'est donc très prudemment que je démarrais mon interview de Laurent Mariotte. En effet, pour préparer cette émission, je l'ai écouté chez Nicolas Caro, où il dévoilait sa bibliothèque. Eh ben mon vieux, de saine lecture.
Il y a beaucoup d'écrivains américains, je remarque, il y a Bret Easton Ellis.
Ouais, ça c'est pas moi.
C'est Sylvia Plath.
Ouais, ça j'ai pas lu.
Ça c'est votre femme.
Oui, c'est ma femme, ouais.
Je sais pas si vous partagez ça avec votre femme, mais il y a le Kama Sutra aussi.
Ah ça, alors ça c'est un des premiers trucs qu'on a acheté. Ouais, il y en a partout, regarde, il y en a un là aussi, mais il est où ? Il y en a un autre là, vous voyez ? Ah non, c'est très important en plus le Kama Sutra. Et évidemment, ça c'est lié à deux. Hein.
Il avait pas pensé à bien ranger sa bibliothèque avant l'arrivée de Nicolas Caro. On fait gaffe avec ça. Alors Laurent Mariotte.
Mais c'est important, mais c'est très important d'avoir le Kama Sutra dans un couple, bien sûr. Ou même célibataire, voilà.
Ça, oui. Ouais, tiens, idée cadeau. Je sais pas, je regardais ça.
Ça, franchement, ça, c'est une bonne idée cadeau. Une blague à part. C'est une lettre très beau, en plus, relié avec des belles couvertures en tissu.
C'est important comme détail. Une couverture en tissu. Pas de couverture en tissu pour mieux manger toute l'année votre livre, Laurent Mariotte. Alors, c'est mieux que. C'est une sorte de Kama Sutra culinaire, on peut le dire. 365 jours, 365 non pas position, mais plat. Et alors, comment vous vous définiriez, Laurent ? Ce que vous faites, vous êtes un passeur.
Ouais, ça me va bien, j'aime bien ça, effectivement. Je suis chroniqueur culinaire, mais passeur. L'idée, c'est. Mon obsession, en fait, c'est que les gens refassent les recettes que je fais à la télévision. Enfin, qu'ils les refassent. Mon obsession, je veux dire, c'est qu'elles soient accessibles à tous et qu'on puisse la refaire le jour même, en fait. Voilà. Donc, je suis pas un chef, c'est pas une cuisine sophistiquée. Je suis pas un excité du dressage, vous voyez, à la pince à épiler. Donc, j'aime que les choses soient bonnes et qu'elles soient. Voilà, je suis un petit peu, on va dire, très à cheval sur la saison. Ça, c'est une certitude. Et j'encourage les gens à cuisiner local. Mais la cuisine, comme disait Alain Chapelle, c'est bien plus que des recettes, voilà, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais c'est surtout un bon moment à plusieurs ou seul, quoi.
Alors donc c'est une recette par jour, on l'aura compris. Aujourd'hui, j'ouvre la page au 5 février.
Ouais.
Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, puisque tout à l'heure je dînerai avec mon fils.
Ça va être sympa.
Financier aux noix. Est-ce que je vais vraiment réussir à faire ce financier aux noix ?
Alors là, franchement, pour le coup, oui. Regardez, j'ai remplacé la poudre d'amande par des noix qu'on va hacher et mixer pour faire de la poudre, tout simplement. Le financier, c'est pas l'œuf entier, hein, c'est juste le blanc d'œuf qu'on va utiliser, du beurre clarifié qui est un beurre fondu qu'on va faire fondre jusqu'à avoir une belle petite couleur dorée pour avoir ce petit goût noisette également. Vous mettez un petit peu de farine, c'est pas compliqué, vous mettez tout ça à cuire et ça cuit très vite le financier.
Alors attends,
ça
me donne précisez-lui envie. Dans quel four, à quelle température, chaleur tournante ou pas ?
Chaleur tournante, absolument, chaleur tournante.
J'ai toujours bon
170
avec ça.
Degrés, le financier, chaleur tournante et on est quoi ? On est à une quinzaine de minutes là. Ça va très vite. Hein.
Allez, je le fais, je vous dirai demain.
D'accord, vous nous en amenez.
Mon fils, comme beaucoup d'enfants, a un peu de mal parfois avec les légumes. Est-ce que vous avez des petites astuces pour leur faire bouffer des légumes à ces petits loustiques ?
Il faut les planquer, en fait, les légumes. Il faut jouer avec les taillages aussi, par exemple. C'est la saison du céleri. Les enfants, peut-être, avec le parfum du céleri, ils ont un petit souci. Un céleri que vous allez tailler finement, façon bâtonnet, façon spaghetti, et vous allez l'agrémenter d'une sauce carbonara, comme vous feriez avec des pâtes. Quand c'est la saison des courgettes, pareil, courgettes carbonara, ça marche. Les épinards, vous les mixez, vous faites un pesto d'épinards pour
accompagner des pâtes. Il faut souvent les mettre avec des pâtes parce que les enfants aiment bien les pâtes et donc quand on arrive à leur planquer les légumes avec des pâtes ou avec du riz, ça marche mieux. Ouais.
Mieux manger toute l'année et apprendre à arnaquer ses gosses. Laurent Mariotte est avec nous cet après-midi. À suivre, c'est bien connu, le cinéma est une grande famille. Hélas, aucune famille n'est à l'abri de compter dans ses rangs un tonton qui fait polémique. Un tonton un peu trop porté sur la bagatelle qui aurait jadis fricoté avec des jeunes femmes un peu trop jeunes en leur disant
« Je te le montre, mais si t'aimes pas, t'en parles pas.
» Alors que la polémique Polanski enfle, l'édition 2020 des Césars approche. Une édition à haut risque, comme la chronique de Mathieu Charrier qui arrive.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous avez aimé la grande bouffe, vous allez adorer l'équipée sauvage spéciale gastronomie. Avec notre invité d'honneur Laurent Mariotte, le Thermomix d'Europe 1. Ensemble, on continue de parler des plaisirs de la table.
Non, c'est bien, on prend là.
Bravo. C'était pas non plus la vanne du siècle,
mais bien. Si, si, c'est pas mal celle-là. Ah, si.
On t'en a des fois, c'est un peu.
Ouais, c'est un peu en dessous. Ouais, là, ouais, c'est un peu au-dessus. Ouais.
Bravo.
Ah, ouais, ah, d'accord.
C'est cher le Thermomix.
Eh bien, très bien. C'est cher le Thermomix. C'est cher, j'aurais pu dire le monsieur cuisine de repas, mais non, c'est le Thermomix, c'est plus chic. Alors, ensemble, on continue de parler des plaisirs de la table. Mais l'heure est venue d'écouter notre deuxième concurrent du jour, Mathieu Charrier. Un mot de présentation, Mathieu.
Mon dessert préféré, c'est le gâteau basque.
Je crois que tout est dit. Mais entre deux gâteaux basques, Mathieu, il vous arrive aussi de vous rendre au cinéma. Or, cette année, à quelques jours des Césars, la grande famille du cinéma français se déchire.
Ah oui, alors pourquoi ? Déjà, vous l'avez entendu partout, 12 nominations pour Roman Polanski et son J'accuse. Alors 12 nominations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'Académie des Césars qui ont décidé que ce film faisait partie des meilleurs films de l'année. Et surtout, ce qu'il faut savoir, j'ai vérifié, c'est que le record du nombre de nominations dans l'histoire des Césars, c'est 13. Donc, non seulement c'est un film multi-nominé, mais en plus,
c'est un record,
une
presque.
Nomination presque du record. Alors, évidemment, il y a plusieurs sous-textes dans tout ça. Est-ce que ce film mérite autant de nominations ? De mon point de vue, pas forcément. On met l'histoire Polanski à part. C'est-à-dire que c'est un bon film, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre, ce film. Donc, dire que c'est celui qui, dans toute l'année du cinéma français, doit être le plus nommé, je trouve ça un peu limite. Ce qui s'est probablement passé en réalité, c'est que vous avez une campagne derrière, notamment de Gaumont, le distributeur du film, qui a dit à ses équipes, allez-y, on va au bout de l'histoire avec ce film, qui a bien marché en salle, hein, plus d'un million et demi d'entrées. Donc allez-y, on va au bout, voter pour ce film, parce que c'est comme ça que ça se passe. Que vous avez aussi des membres du milieu du cinéma qui se sont dit, il y en a ras-le-bol de toutes ces polémiques, etc. On va voter pour le film pour faire un geste politique. Et donc, vous vous retrouvez
une
aujourd'hui...
sorte de discrimination positive, finalement.
Presque. Et donc, vous vous retrouvez aujourd'hui avec les Césars qui sont bien embêtés. Et ce qu'il faut quand même préciser aussi, c'est que dans cette Académie des Césars, des votants, il y a plus de 2/3 d'hommes. Donc, qui sont peut-être un petit peu moins concernés, c'est pas automatique, mais c'est possible, par toutes ces questions de féminisme, par toutes ces questions d'agression sexuelle, etc. En plus, vous avez un président de l'Académie qui est un homme, Alain Terzian, et un conseil d'administration composé en majorité d'hommes. Donc voilà, ça permet de comprendre un peu mieux pourquoi et comment ce film peut se retrouver avec autant de nominations.
Alors, certains vont jusqu'à demander la démission d'Alain Terzian.
Oui, le président. Alors pourquoi la démission d'Alain Terzian ? Terzian, il est président des Césars depuis 2003. Alors on n'est pas en dictature, mais pas loin quand même, parce que 17 ans à la présidence d'une institution, ça commence à faire beaucoup. Certains disent qu'il faudra un peu renouveler les choses, d'autant que ça fait 3 ans que chaque année il y a une polémique. Il y a 3 ans, il avait déjà voulu mettre Polanski, vous en rappelez peut-être, en président d'honneur de la cérémonie. Ils avaient dû rétro-pédaler. Il y a 2 ans, il a créé ce fameux César du public. Alors c'était quoi le César du public ? C'était de dire le film qui fait le plus d'entrées reçoit le César du public. Parce qu'on le disait, il n'y a pas assez de comédie. Bon allez, le film qui fait le plus d'entrées reçoit le César du public. Et vous retrouvez avec les tuches sur la scène des Césars. Tout le monde disait, c'est quand même un petit peu étrange. Alors cette année, il rechange un peu les règles. C'est les 5 films qui ont fait le plus d'entrées qui se retrouvent nommés pour le César
en
du public.
En, bah c'est pas
en compétition, mais c'est quand même l'Académie qui va voter. Donc ça va être Les Misérables ou un film qui, de toute façon, va être récompensé par ailleurs. Et puis alors cette année, il y a eu cette histoire de Roman Polanski. Alors, le problème de Terzian, c'est qu'il n'a pas su passer la main. Parce que quand il est arrivé en 2003 à la mort de Toscan Duplantier, il a repris une Académie qui était quand même choquée et un peu tourneboulée. Il l'a remontée, il l'a fait que les Césars aujourd'hui encore restent une grande cérémonie en prime time, en clair, sur Canal+, là où vous avez les Molières qui ont quasiment disparu, qui sont en deuxième partie de soirée. Vous avez plein de cérémonies qui n'arrivent plus à vivre. Donc voilà, il a permis de au César de s'en sortir. Maintenant, le problème, c'est que quand il dit, en la conférence de presse il y a quelques jours, nous ne sommes pas une instance morale pour réagir aux nominations de Polanski, ça la fout mal.
Alors, ça va donner quoi cette cérémonie? Polanski va venir?
Ah, ça, c'est une très bonne question, parce que Roman Polanski, quand il y a vu l'hommage à la Cinémathèque, il y était allé, Polanski, alors qu'il y avait des féministes devant qui manifestaient, il y était allé. Là, il y a une nouvelle accusation de viol au moment de la sortie de son film. Il y avait l'avant-première 2 jours après, tout le monde se disait, il va quand même pas aller à l'avant-première. Il y est allé, c'est-à-dire qu'il assume son cinéma, il assume ce qu'il fait aujourd'hui, et pour lui, il est innocent, ou en tout cas, il n'a rien fait de mal. Donc vous pouvez vous retrouver, effectivement, dans une salle le 28 février, salle Pleyel, avec un Roman Polanski qui vient peut-être chercher la statuette de meilleur réalisateur ou de meilleur film, une Adèle Haenel qui va très probablement gagner la meilleure actrice. Enfin, vous imaginez le bazar au milieu de tout ça.
Ça va être plus animé que prévu.
Ah, ça va être animé. Ouais. Moi, j'ai demandé à son entourage sur le fait s'il allait venir ou pas. Ils m'ont dit on ne sait pas encore. Donc, ça ne veut pas dire non. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que 12 nominations, il faut quand même préciser que ça ne veut pas dire 12 victoires. Parce que vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que les membres de l'Académie, ils votent pour n'importe quel film qui est sorti dans l'année. Donc forcément, il y a un éparpillement des voix qui fait que vous pouvez vous retrouver avec multinommé. Mais une fois qu'ils vont être confrontés au choix devant 5 films, il n'est pas dit que la majorité vote Polanski. Vous avez des années où il y avait des films qui ont été nommés 10, 11, 12 fois et qui sont repartis avec 0 statuette. Donc voilà, ça va être une cérémonie en tout cas qui promet d'être un petit peu houleuse.
Un petit peu houleuse. Mais derrière ça, il y a toujours la question si on dissocie l'artiste de l'homme. Enfin, c'est juste la seule et unique question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurent.
C'est comme Céline, c'est un enfoiré, un antisémite, mais Voyage au bout de la nuit est un bon roman.
Voilà, enfin, on ne peut pas dire que Voyage au bout de la nuit, ça doit aller au pilon. Enfin,
c'est un débat très, 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 très long et très, très compliqué. Mais c'est, après, vous avez aussi des histoires de symboles. Personne ne dit que Polanski ne doit pas sortir de film. Personne ne dit que... Mais sortir un film... où en gros il se fait passer pour Dreyfus et victime d'un grand complot national,
c'est le message
qu'il
pourrait y avoir. D'accord.
Je comprends que ça puisse choquer certaines femmes qui disent avoir été agressées sexuellement par cet homme, et alors qu'aujourd'hui la justice ne peut plus rien faire parce que les faits sont prescrits.
Après... Mais c'est un bon film, et c'est un film à voir justement sur les relants d'antisémitisme qu'il y a en France aujourd'hui.
J'ai vu.
J'adore le cinéma, et franchement c'est un film qu'il faut voir. Alors moi franchement j'y ai pas du tout vu le rapport et l'analogie entre la vie de Polanski
c'est,
et
c'est lui qui l'a dit en fait ça dans le dossier de presse qui accompagnait le film au festival de Venise. C'est là que ça avait déclenché la polémique.
Moi
je suis d'accord avec vous, c'est un bon film. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur film de l'année qui nécessite le plus de nominations. Mais ça fait partie des bons films de l'année, c'est normal qu'ils soient présents, c'est ça.
Oui, mais ça peut faire changer notre regard sur l'affaire, parce que moi je ne savais pas ce que vous venez de dire, et je trouve que là c'est Polanski lui-même qui fait
Polanski
un lien entre
dans un entretien,
ça,
dans un entretien
et ça, un peu
pour
limite,
le dossier de presse. Vous savez, les films ils sont accompagnés d'un dossier de presse, c'est une interview qu'on envoie aux journalistes.
C'est officiel. Hein.
Voilà, c'est officiel, c'est public. Et au moment de la présentation du film au Festival de Venise, dans ce dossier de presse, Polanski se comparait à Dreyfus. Et après, au moment de la sortie du film en France, le dossier de presse avait été un peu repatouillé parce qu'il s'était rendu compte que c'était très limité. C'est ça qu'a lancé. D'ailleurs, Valentine Monnier, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est quand j'ai vu qu'il se compare à Dreyfus, je me suis dit je peux plus me taire, ça suffit. Quoi. Voilà.
Eh bien, Mathieu Charrier, nous vous remercions.
C'est moi
votre chronique mérite-t-elle 3, 2, voire pas du tout de points.
Il est convaincant.
Juste avant, il est bon. Il est pas mal.
Il est bon, Charrier.
Europe 1. À suivre, moi qui chaque jour la couvre de compliments et n'ai de cesse de la mettre en avant, je vous avoue avoir été un peu choqué, quand j'ai entendu hier Patrick Cohen la présenter comme, je cite,
« la reine des quiches ».
Alors certes, Eva Rock n'a remporté que 7 éditions de notre quiz en 109 émissions, c'est vrai, mais il y a peut-être une raison logique à cela.
J'ai compris une chose, je réfléchis trop.
C'est ça.
Europe 1, l'équipe est sauvage, 16h-18h. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui prend parfois des airs de documentaire animalier. En effet, chaque jour, vers 5h-20, on assiste à la parade nuptiale de la cougar niçoise. Cougar niçoise qui, pour attirer l'attention de l'invité, tente de l'aguicher avec un quiz. Le jeu étant souvent, dans l'oreille animale, le prélude à la copulation. Seulement voilà, autant certains invités ont envie de jouer, autant d'autres s'en foutent complètement, car ils ont, comme Laurent Mariotte, d'autres préoccupations. Pas vrai, Laurent?
Nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. C'est le Beaujolais, la planquette de veau, le roquefort, la frangipane.
Je vous comprends, Laurent. Voilà. C'est un passage obligé de l'émission, comme le pédiluve à la piscine municipale. Le quiz...
Tu sais ce qu'il dit, le pédiluve?
Le quiz de l'invité contre Eva Rock. C'est un vrai faux gourmand. Aujourd'hui, vous répondez chacun votre tour. Une bonne réponse égale un point. C'est parti, Eva Rock. En 1995, un référendum a été organisé aux États-Unis pour savoir quelle nouvelle couleur il fallait rajouter dans les paquets de M&M's. Vrai ou faux?
Un référendum. Ils n'ont pas été jusque-là quand même. Non, je dis faux.
Vous dites faux, c'est vrai.
Oh non.
10 millions de votants quand même. Dès qu'il faut se mobiliser pour une vraie cause. 10 millions de votants, la couleur bleue a recueilli 54% des votes, soit autant que Mitterrand contre Chirac en 88. Coïncidence? Je ne crois pas. Je ne crois pas, il faudra enquêter. Laurent Mariotte.
Oui.
Le temps de cuisson de votre homard va dépendre de son sexe. Vrai ou faux ?
Ah la vache. Il me semble que oui, que la femelle va être un peu plus longue à cuire que le homard.
Il est vraiment cuistot. Les femelles doivent être cuites plus longtemps. 12 minutes pour les filles, 10 pour les mâles, pour un homard d'une livre. Eva Rock.
Et pas de... Oui, allez-y. Non, non, continuez. Non, je cherchais une vanne, mais elle ne vient pas.
Chercher une vanne sur les homards bisexuels, voilà. J'ai cherché longtemps, je ne l'ai pas trouvé.
Non, pas sur les...
Ah oui, homard bleu breton. Et au passage, c'est en été qu'il faut acheter du homard, pas Noël. C'est là c'est la pleine saison, c'est l'été. Et c'est là que les prix sont abordables. À moins de 20 euros le kilo, vous allez trouver du homard en été.
C'est l'été qu'on bouffe du homard. Voilà. Retenez bien ça, chers auditeurs. Eva Rock, Laurent Mariotte, vous répondez tous les deux en même temps. Enfin, vous répondez tous les deux, quoi. Depuis 2016 aux États-Unis, qu'est-ce qu'il est impossible de faire dans les McDo ? 3 propositions. 1. Regarder du porno grâce au Wi-Fi gratuit du McDo. 2. Avoir un nombre pair de chicken wings dans une boîte. Ou 3. Porter un vêtement à l'effigie de Burger King.
Ouais, il me semble que c'est regarder du porno.
Ouais. Moi, je dirais ça aussi, oui.
Et Mathieu Charry, qui ne joue pas, a quand même envie de s'humilier en me donnant une mauvaise réponse, en me disant la 2, la 2,
les
la
nuggets,
2.
Les nuggets, les nuggets.
Oui, ce sont des boîtes de 5, 9, tout ça, non,
mais mais ça a toujours été comme ça.
On parle pas des chicken nuggets, on parle des wings.
Voilà. Alice, il fait pas la bouffe, c'est ce
que vous avez dit.
Non mais Alice, oui, ce que je souligne, c'est que vous faites pas la bouffe, en revanche, vous allez souvent au McDo.
J'ai écouté la question, moi je crois qu'il n'y a pas de wings au McDo, mais c'est vous qui l'avez dit.
Alors ce qui est bien, c'est que le jeu concerne uniquement l'invité et Eva Rock. C'est une bonne chose, puisque
excusez-nous,
oui, mais vous avez la mauvaise réponse, tous les deux. La bonne réponse a été apportée par notre invité Laurent Mariotte et Eva Rock. Effectivement, regarder du porno grâce au Wi-Fi, c'est interdit. Le lobby américain Enough is Enough a réussi en 2016 pour les McDo, l'année dernière pour les Starbucks. Et si vous me posez la question de savoir si c'est possible en France, eh bien, j'en sais rien. Allez au McDo le plus proche, faites-le et dites-le nous en postant un message sur Twitter, hashtag Europe 1. Laurent Mariotte, avant de s'appeler Nutella, la célèbre pâte à tartiner s'appelait Nocciola Pasta. Vrai ou faux ?
Non, les Nocciola Pasta, c'est des dérivés aujourd'hui qui sont faits en bio pour concurrencer Nutella, il me semble. Je dirais faux.
Mais il est imbattable. Oui. Faux. En 1963, c'était Super Crema, le nom du Nutella. Puis une loi italienne interdit les produits qui commencent par Super. Ça devient la tartinoise, puis Nutella, en 1964. Enfin, Eva Rock.
Oui, Mathieu.
Tartinoise.
Mais tartinoise, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd entre le plus lourd poireau du monde, le plus lourd chou-fleur du monde et la plus grosse carotte ? Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu Charry?
Mathieu Charry,
il y a un piège. Il y a un piège, Eva.
C'est une carotte.
Dans vos rêves, peut-être. Mais non, c'est le chou-fleur. 27 kilos. Eva, imaginez un chou-fleur de 27 kilos.
Mais oui, mais parce que comme Laurent Mariotte m'a dit, il y a peut-être un piège. Il veut
gagner, Laurent
Mariotte.
Mais pas bête. Le poireau, 10 kilos. Et la carotte, 9 kilos. Cela dit, une carotte de 9 kilos, c'est déjà une belle expérience.
Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Et un chou-fleur de 20 kilos.
Ah oui, c'est une sacrée boule.
Ça, et ce son sera dûment isolé pour votre prochaine participation à cette émission. Notamment quand on accueillera Olivier Paul. Voici Olivier Paul, une sacrée boule. Je l'ai déjà, je compose, j'écris en direct pour vous l'émission de la prochaine fois. Laurent Mariotte, quel est le plat de votre enfance? Parce que là, 365 recettes, c'est énorme. Est-ce que vous avez un plat qui vous vient à l'esprit plus que d'autres, qui vous a marqué?
Il y en a plein, mais moi c'est le pâté lorrain, parce que j'ai grandi dans les Vosges en Lorraine et c'est un plat que j'adore.
Voilà. Alors là, on se retrouve, le pâté lorrain, j'ai découvert ça très récemment, c'est super bon. Et c'est pas du tout du pâté, c'est comme un feuilleté avec l'intérieur.
On pourrait penser à un friand sous la forme, c'est une pâte feuilletée qui enrobe une farce faite de veau et de porc qui ont été marinés dans du gris de Toul, qui est le vin local, avec quelques aromates comme de l'échalote et du persil. Vous laissez mariner 24 heures, tout ça à l'intérieur de la pâte feuilletée et ensuite au four. Et ça, c'est vrai que c'est le truc qu'on dégustait en sortant de boîte de nuit à 5 heures du matin,
parce que
les Vosges, tout le monde, par exemple, et en Lorraine.
Sort de boîte de nuit à 4 heures du matin.
Oui, voilà, et tous les boulangers pâtissiers font du pâté lorrain, en fait.
C'est vraiment à essayer. Eva.
Le plat pour séduire, en l'occurrence, votre femme, mais dans l'absolu, s'il fallait un plat pour séduire quelqu'un, vous nous conseillerez quel plat?
La Saint-Jacques, je trouve qu'elle est très sexy, un joli carpaccio de Saint-Jacques avec une belle huile d'olive, un petit peu de citron vert et quelques œufs de limpe même par-dessus pour apporter un petit peu de croustillant et de texture, ça marche pas mal.
Oui, mais
la Saint-Jacques, elle est soyeuse, elle est douce, elle est sensuelle, un peu sucrée, je la sens bien.
Mais attention, il la sent bien, la Saint-Jacques. Mais attention, parce que quand on prépare un dîner en amoureux, disons pour un premier rendez-vous, après on se connaît, c'est pas grave, mais la première fois, le premier soir, il faut aussi qu'on passe pas tout le temps
la tête au-dessus de la casserole. Il faut qu'on, soit, qu'on puisse parler avec l'autre. Donc ça, vous, vous restez sur la Saint-Jacques comme plat facile à préparer.
Oui, oui, ça, ça reste facile,
donc
bien sûr.
On peut continuer de...
Non, mais on peut aussi discuter en cuisinant. La, la Saint-Jacques,
ah,
si vous voulez la cuire...
Il faut être bon pour ça, Laurent. Moi, par exemple... Je deviens autiste quand je fais mon fameux, mon fameux risotto vénitien. Alors là, tout s'arrête, le temps s'arrête, et alors je ne peux plus rien faire.
Mais je comprends.
Et ma meuf me dit mais il faut t'occuper des invités, il faut leur parler, il faut faire ci, il faut servir le champagne. Je dis mais non, je ne peux pas, je suis sur le risotto.
Vous avez raison. Alors surtout que le risotto, c'est un truc qui demande de la concentration.
Ah oui, donc c'est pas le bon choix
en fait. C'est 17 minutes minimum où il faut mélanger
et
ajouter du bouillon régulièrement et faire le monte carré à la fin là avec un peu de beurre.
Et si vous avez en plus Pouls qui supervise la chose, ça, ça vire au cauchemar. Ça fait toutes les deux minutes, il est là. Non, là il faut rajouter. Attends, regarde. Il faut rajouter. Non, attends, qu'est-ce que tu fais ? Et donc, c'est insupportable, ne jamais avoir Pouls avec soi. L'aliment insolite, le plus insolite que vous ayez cuisiné, Laurent Mariotte ?
Je crois que ce sont des anguilles. Mais je les ai.
Comme Maïté ?
Mais j'ai fait exactement la même chose dans mon petit plan d'équilibre. Ouais, à l'époque, au début, au tout début de l'émission, j'avais vraiment le produit brut que je cuisinais, mais multiplié par beaucoup d'ingrédients, en fait, pour montrer à quoi ça ressemblait. Donc j'avais, je sais pas, une dizaine d'anguilles comme ça sur, sur le plan de travail. Et il faut, voilà, les amis de la cause animale vont encore m'en vouloir. Mais bon, bref, l'anguille a des terminaisons nerveuses telles qui fait qu'elle bouge encore énormément après. Donc j'ai voulu montrer l'endive comment on la tuait comme Maïté. Ouais. Mais j'ai mis du temps multiplié par 4 par rapport à ce que Maïté faisait à l'époque. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, je... et en plus, c'est pas un truc qui me rend complètement dingue, l'anguille. Et puis il faut savoir quand même que c'est un poisson qui absorbe beaucoup de métaux lourds et beaucoup de cochonneries.
Donc il faut pas en manger
voilà,
trop.
Donc voilà, okay. Voilà, exactement, faut y aller mollo.
On va pas bouffer de l'anguille tous les jours en même temps, mais.
Mais voilà, je pense que dans mon souvenir en tout cas.
Il est le maître queue d'Europe 1.
Ah ouais.
Non, le cordon bleu quoi.
Oh.
Laurent Mariotte passe l'après-midi sur
Europe 1.
Vous voulez que je fasse la fin de l'émission? Vous n'arrivez même plus à parler tant vous dites de bêtises, ça vous fait rire tout seul, quoi.
Non, il est terrible, hein.
Je vois l'œil d'Anissé Mbida qui s'allume. Oui, Anissé, vous savez ce qui nous attend après une petite parenthèse musicale.
La fessée, la fessée.
Non, pas en antenne pendant la parenthèse musicale, à l'antenne après la parenthèse musicale. Eh bien, notre décrochage régional, les amis. Aujourd'hui, c'est en Bretagne que nous partirons, juste après Rock Collection, Laurent Voulzy sur Europe 1, pour fêter le Brexit.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. Or, qu'est-ce que l'équipe est sauvage ? Sinon l'émission de tous les possibles. L'émission où Imani peut chanter du Radiohead a cappella.
But I'm a creep, I'm a weirdo.
Où Eric Orsena peut citer du Schopenhauer. Où Florent Père déclamait du Patrick Sébastien.
Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte.
Et en prime de tous n'importe quoi, l'équipe est sauvage, c'est aussi chaque jour un décrochage régional. Bonjour François Coulon.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous présentez aujourd'hui une belle initiative, comme vous en avez le secret François, une histoire de cœur, disons-le.
Oui, on peut dire ça. Mettez-vous une seconde dans la peau d'un enfant handicapé en fauteuil, par exemple. Il s'approche d'une aire de jeu, on l'entend, et il entend justement les cris de plein d'enfants valides qui grimpent, courent, sautent, rampent, glissent et s'amusent comme des fous. Imaginez ce qu'il peut ressentir, lui, qui est exclu de ce tableau qui fait envie. Et c'est justement pour ne plus laisser les enfants handicapés à la porte des parcs de loisirs que la ville de Vannes, dans le Morbihan, a créé la plus grande aire de jeu inclusive de France.
Ce qui veut dire qu'elle est ouverte aux enfants handicapés, mais aussi aux enfants valides.
Oui, c'est l'un des grands intérêts. Alors, vous trouvez sur cet espace de 750 mètres carrés une trentaine de jeux, excusez du peu, dont un toboggan prévu pour les fauteuils, une balançoire plateau, dont un côté, oui, vraiment génial, un côté s'abaisse pour pouvoir y glisser un fauteuil roulant. Il y a également un trampoline au ras du sol, ouvert lui aussi au fauteuil, et ce sont des enfants valides qui, en sautant, font sauter les fauteuils, donnent le rythme et la banane à leurs copains handicapés. Et vraiment, c'est un parc où les différences se côtoient, se respectent et s'entraident. Ce parc est une très belle invention. Tous les enfants jouent ensemble et c'est très beau à voir. Et
est-ce que c'est un parc ouvert à tous les handicaps, François ?
Effectivement, handicap moteur, mais aussi visuel, auditif, cognitif et intellectuel. Alors, il y a des explications en braille, des jeux aux couleurs flashy pour les enfants malvoyants, mais on peut aussi, dans l'autre sens, apprendre son nom en langue des signes. Mmh. Il y a des espaces plus au calme, comme un petit train un peu à l'écart pour les enfants autistes qui ont besoin d'apaisement. Bref, une grande diversité qui fait le plein. Le parc ne désemplit pas depuis son ouverture en décembre dernier.
Et le problème, c'est que ça coûte cher, hein, je crois, plus cher qu'un parc normal.
Alors, Effectivement, c'est pas donné. Hein. 500 000 euros, c'est 5 fois plus cher qu'un parc classique. C'est cher, certes, mais il me semble qu'en période électorale, ce bel exemple pourrait donner de bonnes idées à des candidats en manque de projets dignes d'intérêt.
Effectivement, une bonne idée que vous glissez à nos politiques. Merci beaucoup, François Coulon, pour ce décrochage régional.
Avec plaisir. À bientôt.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et la presse est unanime. Je cite « Une émission formidable, à mi-chemin de Francis Blanche, Édouard Baird et Jean Rochefort, en mieux, Monique Noël. L'émission qui a ringardisé toutes les autres en seulement 5 mois, Laurence Noël. Une émission sympathique, Télérama. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre en deuxième heure, et notamment le facétieux et inénarrable Alain Sirou, notre consultant scientifique, qui tentera d'expliquer à notre invité Laurent Mariotte qu'avant de la bouffer, il serait judicieux d'écouter la coquille Saint-Jacques, qui a visiblement beaucoup de choses à nous dire.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour nos valeureux loustiques. Alors que de nouveaux prétendants au titre de chroniqueur du jour vont nous rejoindre, il est temps de saluer Anissé Mbida et Mathieu Charrier, l'éminent et irremplaçable vice-chef adjoint délégué du service culture d'Europe 1, formidable ambassadeur des arts au sens large. Dernièrement, l'attaché de presse du Festival d'Angoulême lui a d'ailleurs envoyé une lettre de remerciement pour la belle pub qu'il avait faite au festival.
Vous savez, Angoulême, c'est des bulles, vous savez, des sortes de grands chapiteaux à travers toute la ville, surchauffés. Souvent, il y a même de la condensation. Donc vous avez...
Ah oui, donc c'est propice au développement des germes.
Ah, c'est un peu propice au développement, mais c'est aussi ce qui fait le charme. C'est que c'est
une bonne gastro, c'est vrai.
La ville se transforme en...
Ah oui, on vomit, mais on vomit tous ensemble.
Et c'est ça qui est beau dans la bande dessinée.
Mais c'est la magie d'Angoulême. C'est merveilleux, ça vous a vraiment donné envie d'y aller. On continue de vous faire vivre la culture côté glamour, mais pour l'heure... Il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous êtes au cœur de l'équipe est sauvage spéciale gastronomie aujourd'hui. Olivier Pouls ne va pas tarder à nous rejoindre, il s'échauffe en coulisses.
Bah oui, je fais trémousser mes ustensiles, voyez-vous.
Oui, pendant qu'il fait trémousser ses ustensiles, heureusement en dehors du champ des caméras d'Europe1.fr, c'est son compère, le monsieur gastronomie d'Europe 1, Laurent Mariotte, qui nous accompagne. Et alors, très franchement, je l'ai déjà dit, mais alors Véran, vous pouvez me faire confiance sur ce coup, c'est pas de la complicité entre collègues, il faut vous procurer son livre « Mieux manger toute l'année ». C'est génial parce que chaque jour, une recette que même moi, c'est quand même tout dire, réaliser.
Ah, c'est gentil, mais c'est vrai, non, mais c'est fait pour
ça
vous.
Je comme ça,
l'ai
ce
écrit
livre.
En pensant à vous, justement. Pour vous
pas.
Sortir du risotto à la vénitienne, je me suis dit, il faut qu'il fasse d'autres choses, parce qu'il va tourner
simple.
En rond, le gars.
Ah bah ça, pour tourner en rond, je tourne en rond, je vous le confirme. Alors, on continue de feuilleter ce très bon livre, Mieux manger toute l'année. Juste le temps, Laurent, de vous présenter nos deux derniers concurrents du jour. Deux journalistes en lice, je le rappelle, pour la couronne suprême de chroniqueur du jour. À ma gauche, plus qu'un journaliste, plus qu'un chef de service, un phénomène. En effet, non content d'enchaîner les sujets tête couronnée sur la grande duchesse du Luxembourg et les Kate et William de l'Himalaya, la dernière fois, Emmanuel Duteil a franchi un nouveau cap dans la fantaisie. En entrant dans le studio, au lieu de me donner son texte, il l'a donné à l'invité.
Bonjour.
Ah ben non, c'est pas vous. Ah
ton texte à l'invité.
Pardon, le mec est même pas réveillé.
Un jour, vous ouvrirez votre tête, Dudu. Alors, mon cher Emmanuel, j'ai du mal lire le tableau, je ne vois que ça. Les tribulations de la monarchie luxembourgeoise, vous l'avez déjà fait il y a 2 semaines, non?
Oui, mais je vous rappelle que ça avait généré une sorte de fou rire, et surtout, à la fin, vous m'avez dit, mais c'est quoi la chute de l'histoire? Et je l'avais pas, parce que le rapport n'avait pas été encore remis sur les tracasseries de la cour grand-ducale. Le rapport a été remis, je l'ai même lu, je l'ai là, avec moi, hop, 44 pages du rapport de Jeannot Varingo. Et donc je vous raconte tout ça.
Ce bon vieux Jeannot. Effectivement, donc une chronique avec une chute aujourd'hui pour Emmanuel Duteil.
Avec tout, un début, un milieu et une fin.
Carrément exceptionnel. Rien pour ça, vous méritez déjà des points. À ses côtés, Laurent Mariotte, vous l'avez déjà peut-être croisé dans les couloirs d'Europe 1. Vous avez certainement pensé qu'un remake de Derrick était en cours. Il n'en est rien. C'est juste Alain Sirou, directeur de la revue Ciel et Espace et consultant scientifique d'Europe 1. Extraordinaire conteur qui a toujours sous le coude une petite citation de grand philosophe pour appuyer son propos. Et puis bon, quand il en a pas, il invente.
Aristote disait « Personne ne peut se chatouiller tout seul ».
Ouais, ça passe, Aristote.
C'est vrai, mais c'est bien, on y croit, mais bien
bonjour
sûr.
Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour Laurent, bonjour à tous.
Alors Alain, comme contrairement à Duteil qui s'en fout complètement du thème de l'émission et qui reste monomaniaque sur son duché du Luxembourg, comme vous Alain, la cohérence éditoriale de notre émission vous importe, vous avez choisi de nous parler d'un animal que Laurent Mariotte adore, surtout quand il se présente à lui sous la forme d'un carpaccio, la coquille Saint-Jacques.
Bah oui, elle est de saison d'abord.
Exactement.
Mais après ma chronique, je pense que vous ne pourrez plus manger de coquille Saint-Jacques comme vous la mangez actuellement, parce que je vais vous raconter qu'elle est une machine à remonter le temps. Et ça, c'est extraordinaire, ainsi que la palourde.
Et elle bouge énormément, elle se déplace, hein, la coquille Saint-Jacques, elle gambade.
Ouais.
Parfois, messieurs, vous m'inquiétez. Mais vous m'inquiétez quand vous imitez la coquille Saint-Jacques, Laurent. Alors, le pataquès grand-ducal au Luxembourg ou la coquille Saint-Jacques qui murmurait à l'oreille de Sirou, lequel de ces deux sujets formidablement aguicheurs aura vos faveurs? La réponse tombera juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité, l'ami Laurent Mariotte. Dans votre livre « Mieux manger toute l'année », vous nous proposez donc une recette par jour. Mais s'il ne devait en rester qu'une, c'est quoi votre spécialité? Le truc que vous... votre botte secrète?
Je suis très blanquette en ce moment. Ouais, j'adore la blanquette.
Votre blanquette est bonne?
Ouais, ma blanquette est très bonne. J'adore la blanquette et voilà, c'est un truc que j'adore faire. J'ai trouvé un boucher à côté de chez moi qui fait venir un joli veau bien élevé bio en Corrèze qui est magnifique. Donc voilà, avec une belle blanquette bien crémée, les carottes, les poireaux que je n'utilise pas uniquement comme garniture aromatique, mais que je remets en garniture tout court à l'intérieur de la blanquette. Voilà.
Et une question, est-ce que c'est compliqué à faire une blanquette
pas
de veau?
Pas du tout. Non, franchement.
Ça prend combien de temps?
Alors ça prend une heure et demie de cuisson, une grosse heure et demie de cuisson. Mais il y a un bon trois quarts d'heure de préparation. Effectivement, il faut pocher la viande d'abord. Ensuite, on va utiliser le bouillon qui aura permis de pocher la viande pour faire notre sauce en fait à base d'une béchamel. C'est comme une sauce blanche, si vous voulez. Hein, c'est pas une béchamel parce qu'on met pas de lait, mais on va prendre le bouillon pour mettre avec du beurre et de la farine qui est un roux et faire notre sauce qui sera bien nappante autour de la sauce.
Voilà, j'ai l'eau à la bouche. La spécialité de Laurent Mariotte, c'est donc la blanquette de veau. Mais vous, chers amis, quelle est votre spécialité? On est allé vous poser la question.
J'aime bien faire des pâtes carbo.
Couscous royal.
Je mets des allumettes. Je mets pas lardons, moi. Je mets des allumettes parce que j'aime pas les lardons.
Mais moi, ma spécialité, je suis ivoirienne. C'est la sauce gombo. La sauce avec du gombo.
Moi, je prends des plats tout préparés. Alors, vous voyez le truc.
Oui, c'est le goût de gombo.
Un béca off. Veau, bœuf et un pied de porc.
Faut pas être au régime.
Ben, c'est pas moi qui cuisine. C'est ma femme qui cuisine. Non, ça craint pas. Pourquoi? Moi, je fais pas la cuisine, je travaille, c'est déjà pas mal.
Je vous invite pas à dîner chez moi ce soir.
Ah si. Moi, je peux vous faire un bar grillé à la plancha. Et en dessert, je vous fais des petits abricots au miel cuits à la plancha. Avec ça, on boit un petit Bordeaux. Et puis en entrée, un petit tchakouli du Pays Basque.
Laurent Mariotte, tous les jours à TF1, il présente un plat.
Laurent Mariotte, il est beau. Il me plaît.
Sans oublier le parmesan.
On mange bien sur Europe 1.
Visiblement, le fantasme de la femme française en 2020, c'est Laurent Mariotte avec un peu de parmesan dessus. Visiblement, c'est ça le truc qui excite nos auditrices. Alors, Laurent Mariotte, ce 5 février, on l'a dit, c'est la journée mondiale d'une célèbre pâte à tartiner qu'on ne citera pas. Est-ce qu'il vous arrive, vous-même, d'utiliser des aliments honteux?
Bien sûr,
recettes.
Mais j'en ai dans mon placard, franchement, pour vous
régressif,
dire la vérité, j'en ai, bien sûr, oui. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je peux tremper ma cuillère dans une danette de temps en temps, vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, même
voilà,
vous.
Oui, voilà, ça m'arrive, il y a des trucs un peu régressifs, mais voilà, j'en achète pas une tonne et j'en achète pas tout le temps, quoi, effectivement.
On ne mange pas que bio chez Laurent Mariotte.
Non, mais voilà, il faut se faire plaisir, la cuisine, c'est avant tout du plaisir, on n'arrête pas d'avoir des interdits de tous les côtés, si on n'a pas le droit de faire un petit interdit de temps en temps, c'est en faisant justement des interdits de temps en temps qu'on retrouve le plaisir, justement, des bonnes choses.
Il est tous les jours sur TF1, tous les samedis sur Europe 1. Laurent Mariotte est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
La dernière fois, emporté par l'enthousiasme et les rires, il n'avait même pas réussi à aller jusqu'à la chute de sa chronique. En même temps, comme il nous l'avait avoué entre deux éclats de rire, ça tombait un peu bien puisqu'il n'en avait pas.
On pourrait arriver, selon la presse luxembourgeoise, jusqu'à l'abdication du grand duc.
Non, Dieu. Mais non.
Si. Oui, ça la fout mal quand même quand le Premier ministre vient comme ça enquêter sur le. Mais je sens que vous vous moquez complètement.
Mais non, il faut tenir jusqu'au bout, Emmanuel. C'est comme un rôle.
Ouais,
hein.
Ouais, là, ouais,
ça mieux
ouais,
vous le dira. Il faut croire dans votre rôle jusqu'au bout. Hein.
Bah, à la fin, je peux pas vous la raconter.
Décemment pas rester sur ce goût d'inachevé. C'est pourquoi Emmanuel Dutheil a décidé de nous livrer la suite de l'affaire dite de l'archiduchesse qui émeut le Luxembourg et nous par ricochet humoristique. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, vous connaissez notre devise. Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Et quand Emmanuel Dutheil est parmi nous, ça ne risque pas. Autrefois confiné aux profondeurs du classement européen des meilleurs journalistes à la suite de chroniques soporifiques sur la baisse des taux d'intérêt, Emmanuel Dutheil, chef du service éco, a su se réinventer en laissant libre cours à sa passion jadis secrète pour les têtes couronnées. Depuis, le Léon Zitrone 2.0 enchaîne les succès, surtout d'estime, mais c'est déjà un début.
C'est ça, j'ai marqué
mieux,
deux points.
Il forme avec moi un duo comique qui n'est pas sans rappeler les grandes heures de Shirley et Dino.
Le roi du bouton est le seul à pouvoir porter la couleur jaune.
Si on se pointe, par exemple, avec un kimono jaune, on est débouté.
Je croyais que vous alliez me faire un truc comme bout en train et tout ça aussi, mais bon.
Ah non, ça j'ai pas osé.
Vous avez pas osé, mais vous avez raison, parce que je crois qu'il n'y a pas de train en plus au bout en.
Bon ! Alors, Emmanuel, Vu le fou rire sur
mais
lequel
j'apporte elle... de l'information. Ah, admirable.
Non, admirable.
De l'info et du lol. Alors, vu le fou rire sur lequel elle avait débouché. Moi, je vous en prie, dites tout de suite que je suis vieux. Bref, vous nous parlez de la Grande Duchesse du Luxembourg comme d'habitude. Voilà, ça sera mon lancement.
Oui, enfin bon, Laurent Mariotte, vous avez choisi votre jour, vous l'avez compris. Vous vouliez tout savoir sur la cour grand-ducale de Luxembourg. Vous n'aviez jamais rien demandé là-dessus. Moi, je vais tout vous raconter. Alors, si vous êtes un petit peu comme Mathieu Charrier qui était là à vos côtés tout à l'heure et que vous vous dites j'en ai rien à faire, bah vous avez peut-être raison, mais je vais essayer quand même de vous intéresser.
Non, mais je vous écoute.
Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Eh bien, parce que un rapport officiel a été commandé par le Premier ministre du Luxembourg à un ancien inspecteur des finances luxembourgeois sur le train de vie de la cour grand-ducale et savoir un peu comment l'argent public est utilisé et puis pourquoi il y a un tel problème de ressources humaines. Alors, ce rapport fait 44 pages. Je tiens à souligner qu'ils n'ont pas dépensé d'argent pour la mise en page, parce que c'est vraiment pas très très joli, c'est pas très très agréable à lire. C'est extrêmement...
Mais vous l'avez lu quand même.
Ah, je l'ai lu, je peux vous assurer que je l'ai lu. Hein. 44 pages de ce rapport, en même temps, ça ne demandait pas un effort considérable. Et ce rapport avait été donc demandé parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que, ce qui avait beaucoup fait rire Mathieu la dernière fois, que la grande duchesse, qui s'appelle Maria Teresa, qui est d'origine cubaine...
La fameuse
La fameuse, que tout le monde connaît, bien évidemment, elle serait... tyrannique.
Elle serait pas gentille, était le terme précis que vous avez utilisé la dernière fois. Alors Emmanuel, on va lever le voile tout de suite. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elle est pas gentille, cette duchesse ?
Ouais. Toutes les rumeurs sont confirmées. Ouais. Déjà, on ne peut pas dire que l'auteur du rapport se soit senti très très à l'aise pour faire son travail. Après avoir débuté mes investigations, je ne pouvais plus me départir de l'impression que ma présence était ressentie comme un élément perturbateur, dit-il par exemple.
Il
confirme que le climat est loin d'être au beau fixe au sein du palais. Bah oui. J'ai senti une certaine anxiété auprès des collaborateurs, comme l'anxiété d'être réprimandé ou de perdre leur emploi. J'ai senti une certaine peur du blâme. Vous voyez, c'est pas très sympa dans les cours du palais grand-ducal. Bien, j'ai bien aimé cette petite phrase aussi. La jovialité et l'humour y sont rares. C'est pas comme dans l'équipe sauvage. Et comme le souligne la presse luxembourgeoise, ça n'a rien à voir avec le protocole. Non, le problème est donc très clairement identifié. Et on ne s'était pas trompé la semaine dernière quand on en a parlé. Le problème, c'est donc notre fameuse grande duchesse Maria Teresa, merci de suivre, qui veut tout régenter, qui est la cubaine, voilà, et qui fait tourner tout le monde en bourrique. Il y a aussi quand même le problème de l'utilisation de l'argent public, puisque là, très clairement, ils disent qu'on ne sait pas très bien. Il y a une dotation d'un tout petit peu moins d'11 millions d'euros qui est accordée à la famille grand-ducale, mais bon, ils se trompent, semble-t-il, un petit peu pour financer le public et le privé.
Alors, c'est vrai que, Emmanuel, entre votre passion pour l'économie, les têtes couronnées et l'humour, on ne sait plus trop, mais là, vous, dans la relance, vous m'avez, j'ai l'impression, glissé une blague, puisque vous m'avez écrit « Et comment ce rapport a-t-il été perçu par le souverain ? Vous nous aviez parlé d'une possible addiction. Vous voulez parler d'abdication, peut-être ? Parce que addiction à quoi ?
C'est mon addiction aux têtes couronnées, et je voulais écrire abdication.
Il me fout des pièges dans les relances.
C'est ça, je voulais. Bon, en tout cas, je suis. En plus, mais rien ne marche derrière, parce que moi j'avais prévu de vous dire ce que vous deviez me dire abdication. J'étais content de vous dire tiens, vous avez quand même retenu ma chronique de la dernière fois.
Un effet qui passe à la trappe. Ça arrive au meilleur.
Mais Shirley Dino, hein, c'est ça.
Bon, alors en tout cas.
Mais ils rebondissent toujours, Shirley Dino, vous allez entendre.
Non, sur ce point-là, on s'était trompé.
C'est-à-dire
la presse luxembourgeoise et l'interprétation que j'avais pu en faire, puisque certes, le rapport fait très mal à la famille grand-ducale, mais on n'ira pas jusqu'à l'abdication du grand-duc. Donc rassurez-vous, on n'aura pas de prochain couronnement au grand-duché du Luxembourg.
Ah bah moi, ça me rassure, parce que voilà, ça m'empêche de dormir. Là.
Mais il y a un grand-duc héritier. À côté de ça, ils étaient prêts. Mais ce qui était marrant, c'est qu'on a eu le droit 10 minutes après la publication de ce rapport à un communiqué. Alors là, vraiment pour le moins laconique du palais, je vous le lis, ça vient du maréchalat de la cour. Rien que ça, c'est quand même magnifique.
Le maréchalat de la cour.
Dans un souci d'une plus grande transparence et de modernisation, la cour contribuera de manière constructive à la mise en œuvre des améliorations proposées dans ce rapport. Grosso modo, on n'en a rien à faire, laissez courir. Car le plus dur commence, la cour va quand même devoir apporter des améliorations, ils vont devoir se réformer. On va dire très clairement, la grande-duchesse va devoir se calmer. Et ce qui était très très marrant...
Ah carrément, vous lui parlez comme ça, la grande-duchesse.
Ce qui était justement très marrant, parce que je sais que je suis le seul autour de cette table à aller regarder le compte Instagram de la famille grand-ducale. Je vous rappelle, c'est Cour grand-ducale sur Instagram. Et ils ont posté hier, justement, une photo de la grande-duchesse qui est tout sourire, toute gentille, au chevet d'enfants malades. Si ça,
oh,
c'était pas la plus belle manière de répondre à Jeannot Varingo, qu'elle est quand même pas si méchante et presque gentille, et ben voilà.
Vous voyez, j'ai une chute, j'ai il avait une chute exceptionnelle. Merci Emmanuel Dutheil. Votre chronique mérite-t-elle 1, 2, 3 étoiles ou simplement un bip gourmand ? La réponse tombera peu avant 18h.
C'est déjà pas mal, un bip gourmand.
Oh, c'est très bien. Europe 1.
À la question « Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?», c'est souvent Eva Rock qui a la réponse. Mais après cette chronique sur les déboires de la monarchie luxembourgeoise qui l'a profondément secouée, Eva sera-t-elle en mesure de présenter sa rubrique Conseil télé ?
Et le prince Charles ? Oui. Qui trompait les Didi pendant qu'elle soignait les petits lépreux ? Oui, ça, Eva. C'est pas des manières de cochon, ça
oui,
peut-être ?
Bien sûr, Eva, bien sûr. Mais prenez l'exomile, respirez fort et écoutons ensemble pour nous calmer Big Soul, le brio. Vous verrez, ça va faire bien fou.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue. Je vous rappelle que dans cette manche, Emmanuel Duteil, qu'on vient d'entendre, affronte Alain Sirou. Prêt pour le face-à-face, Emmanuel ?
Un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul.
Ah non, vous devriez écouter Alain Sirou à un moment ou à l'autre. Hein. Ah bah non, c'est le principe. Aujourd'hui, pour notre spéciale gastronomie, c'est Laurent Mariotte qui nous accompagne pour la publication de son livre « Mieux manger toute l'année ». Alors Laurent, il y a eu un changement de vie à un moment. Vous avez fait l'école Ferrandi, prestigieuse école. Et comment ça s'est passé ? Vous faisiez quoi au moment où vous avez décidé de faire ça ?
J'animais des émissions sur TF1, une émission qui s'appelait Les Coups d'humour et une autre émission qui s'appelait Ça vaut le détour. Et voilà, Ça vaut le détour où je présentais des poursuites de voitures aux États-Unis, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de directs avant d'être à TF1, même sur TF1 je faisais des émissions en direct. Et j'étais arrivé un petit peu au bout de la télé dans mon idée, quoi. J'avais 35 ans et je commençais à tourner en rond. J'ai toujours eu envie de, enfin, j'ai toujours cuisiné au quotidien. Et je me suis dit allez, changeons de vie parce que je travaillais plus beaucoup à la télévision. Vous savez, quand on a des rythmes un petit peu comme ça déséquilibrés, moi j'aime bien être occupé tout le temps, quoi, en fait. Donc je dis, allez, je vais faire un métier qui va m'occuper tout le temps, je vais faire cuisinier. Donc j'ai tout arrêté pour aller passer un CAP de cuisinier à Ferrandi, à l'école Ferrandi. Et la télé m'a rattrapé après.
Après, vous avez combiné les deux.
Et après, j'ai combiné les deux parce que Cuisine TV m'a proposé une émission qui s'appelait 24 minutes chrono, qui était la première émission de cuisine en temps réel où je cuisinais en moins d'une demi-heure, cuisson comprise, une recette. Donc là, quand on m'a proposé ça, effectivement, j'ai dit oui. Et maintenant, c'est vrai que je suis très heureux parce que je concilie les deux, quoi. Mais j'étais parti pour ouvrir un restaurant avec des copains, ouais.
Mais peut-être un projet pour plus tard.
Peut-être, oui, mais vous savez, c'est un autre métier, ça. La gestion du personnel, la gestion d'un restaurant et tout ça.
Ben ça, c'est m'en parlez pas.
C'est vraiment un autre métier.
Parlez pas.
Vous qui avez le risotto, ce fameux restaurant.
Mais j'ai un restaurant, figurez-vous, c'est mon cher Laurent Mariotte. Exactement, à Argentan, la table de Fernand. Restaurant numéro 1 sur TripAdvisor dans l'Orne. Je vous y invite tous.
Alors,
Laurent Mariotte.
Attention, vous venez de tous nous y inviter. Donc
je vous y invite tous, c'est vrai. Et tous les auditeurs, ça va me faire cher. Laurent Mariotte, est-ce que vous passez beaucoup de temps devant la télé, vous qui y êtes beaucoup ?
Pas tant que ça, franchement pas tant que ça, mais un petit peu quand même, mais pas beaucoup.
Chaque soir, on perd tous 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou sur les nombreuses plateformes qui s'offrent à nous aujourd'hui. Heureusement, il y a désormais Eva Rock et sa rubrique 17 minutes de gagner.
Alors je voulais revenir sur le magazine culturel Stupéfiant, je sais pas si vous connaissez ce magazine
avec Léa
qui
Salamé.
Était présenté par Léa Salamé, qui n'est plus sur France 2 comme l'année passée, mais qui est sur France 5 et qui se décline en fait sous forme de documentaire comme ce soir, avec un sujet absolument passionnant. Et ne riez pas, je suis très sérieuse. Les travestis comme figure récurrente dans l'histoire de l'art et dans l'histoire tout court, donc depuis notamment la cour de Louis XIV. Alors grâce à des historiens, des philosophes, des écrivains, mais aussi grâce à de nombreux témoignages, le documentaire va revenir sur des destins incroyables de gens qui se travestissaient. Alors je pense par exemple à l'abbé Choisy qui était surnommé la Grande Demoiselle, on est au XVIIe siècle. Il se travestissait pour séduire les femmes, pour qu'elles donnent plus lors de la quête après la messe par exemple. Vous allez voir évidemment Georges Sand qui se baladait en tenue d'homme alors que le port du pantalon était interdit à Paris. Vous allez découvrir des photos de fantassins de la Wehrmacht habillés en femmes. C'est absolument incroyable. Et puis, les chansons secrètes d'un artiste que vous aimez beaucoup, Laurent Mariotte, Serge Gainsbourg.
Il est très étroitement lié au milieu travesti, Gainsbourg, parce qu'il a travaillé chez Madame Arthur. Il remplaçait son papa au piano. Et Gainsbourg, ses premières chansons, il les a composées pour les travestis avec lesquels il travaillait.
Gainsbourg a toujours caché ses premières chansons écrites pour des travestis. En 1955, il compose Antoine Le Casseur pour Lucky Sarcel. Ce morceau, jamais enregistré, inédit, le voici.
Antoine Le Casseur.
Alors moi, je ne savais absolument pas que Serge Gainsbourg avait travaillé chez Madame Arthur en remplacement de son papa, pianiste.
Hein,
voilà. De la contre-culture à la culture pop, comment les travestis ont-ils été acceptés ou pas dans la société ? Comment ils nous interrogent aussi sur la notion de masculinité et de féminité ? C'est toutes les questions que le magazine pose ce soir sur France 5 à 20h50. Il est absolument fascinant, c'est truffé d'infos et d'histoires qui sont richement illustrées. Donc, à voir sur France 5, 20h50, pardon, je l'ai déjà dit, et sur le site France.tv.
Et voilà.
Vachement bien.
Mmh. Vachement bien. Mine de rien, on vient de gagner 17 minutes.
Europe 1.
Eva, je vous vois trépigner d'excitation sur votre chaise, comme en proie à une vive impatience. Visiblement, vous savez ce qu'on va faire après la pub, vous ?
Boire une bière.
Non, non. Écoutez la chronique d'Alain Sirou. C'est
et
déjà
boire
bien.
Une bière.
L'homme qui parlait aux coquilles Saint-Jacques, car il paraît, d'après les scientifiques, que les coquilles Saint-Jacques ont beaucoup de choses à nous dire. Fascinante nature.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipé sauvage. Mathieu Noël.
L'équipé sauvage spéciale Manger mieux continue 2 heures pour apprendre à manger sainement toute l'année en se faisant plaisir avec notre invité Laurent Mariotte, que je sens très impatient de découvrir la chronique d'Alain Sirois. À quoi vous pensez là tout de suite, Laurent?
Du lard, une belle poitrine de cochon fumé.
Vous n'arrêtez jamais, hein. Mais avant la poitrine de cochon fumé, il nous faut écouter le papier de notre ultime concurrent du jour. Ne vous laissez pas intimider par le look inquiétant que lui confère ses montures optiques vintage, ni par sa manière assez flippante de dire bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour les amis.
Oui, bonjour aussi Alain. Alain Sirois, vous êtes notre consultant scientifique et ce soir, spécial gastronomie oblige, vous nous parlez ni de comète, ni de cosmos, mais de coquille Saint-Jacques.
Oui, coquille Saint-Jacques, de machine à remonter le temps. Alors pour nous, c'est la coquille Saint-Jacques. Pour les biologistes marins, elle a un nom, c'est Pecten Maximus.
Exactement, c'est comme ça qu'on peut voir si on a affaire à des vrais Saint-Jacques et pas à des pétoncles qu'on essaie de nous refourguer de temps en temps. Ouais.
Ah, je ne savais même pas qu'on essaie de nous refourguer des pétoncles.
C'est très bon les pétoncles, mais il faut qu'on mange ce qu'on achète.
Ouais. Mais c'est de la même famille, hein. Ce sont des bivalves. Et pour les scientifiques, pour les biologistes marins, et là je vais faire appel à Laurent Chavot qui travaille à l'Institut européen de la mer à Brest, qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle « La coquille Saint-Jacques, sentinelle de la mer » aux éditions Équateur, et qui raconte la chose suivante, c'est que quand vous regardez le squelette d'une Saint-Jacques...
Bah déjà, elle a un squelette, moi je l'aurais pas dit qu'elle
avait
un squelette.
Ah oui, ça s'appelle la coquille.
Alors moi je m'en vais.
Ce qui ne se mange pas, vous savez, ça ne se mange pas. C'est le seul truc qui se mange pas.
Tu les manges, hein.
Oui, je sais, mais il est concasse.
Donc c'est ce qu'on appelle un squelette externe qui protège l'animal. Eh bien, vous voyez bien des stries dessus. C'est un peu comme les cernes des arbres. C'est des lignes de croissance qui marquent en fait l'histoire de l'animal au fond de la mer.
On peut voir l'âge de la coquille en comptant les stries.
4-5 ans à peu près. Mais ce qu'ont découvert les scientifiques, il y a quelques années, c'est une découverte tout à fait étonnante, c'est qu'entre ces marques particulières, il y a des stries microscopiques. Mais quand je dis microscopique, c'est très très petit. Oui, exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces micro-sillons, en fait, donnent des informations au jour le jour de l'état de la mer. Il enregistre la température de l'eau, la salinité, les courants. On sait ce que les coquilles mangent à ce moment-là. On connaît la pollution. On connaît même le vent, la vitesse du vent. Et ça, c'est absolument incroyable.
La vitesse du vent, mais il n'y a pas de vent sous l'eau.
Il y a les courants marins,
c'est pas du vent.
Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en regardant cet animal avec cette résolution spatiale, donc les micro-sillons, en quelque sorte, c'est incroyable. En fait, ils analysent les isotopes de calcite des coquilles.
C'est quoi les isotopes de calcite? Parce que si vous voulez, on n'est pas non plus sur France Culture.
C'est un groupe, ce sont des informations chimiques, en quelque sorte, qui sont données aux biologistes.
Et qui, visiblement, vous excite beaucoup. Hein.
Alors, ce qui est formidable, c'est la résolution temporelle. C'est-à-dire, quelle est la nature de l'information? C'est beaucoup plus précis que les cernes des arbres, vous voyez en Antarctique les carottes glaciaires dans lesquelles on a des strates.
Le permafrost.
Non, ouais. À l'intérieur, là c'est vraiment de la glace. Hein. On a une analyse de dizaines d'années, mais pas du tout. Avec la coquille Saint-Jacques, on connaît au quart d'heure près, la température de l'eau à 0,5 degrés près.
Il faut la tester dans l'eau à ce moment-là.
Non,
parce qu'une fois qu'on la sort de l'eau, ça ne marche plus.
Non, c'est juste les coquilles. Parce que, alors, vous avez raison de faire cette observation, parce que la durée de la coquille Saint-Jacques, vous allez me dire, votre machine a remonté le temps, elle marche pour 4-5 ans, mais ça, on le sait. Alors, en fait, non. C'est-à-dire que les coquilles sont présentes sur la Terre depuis très longtemps, et les hommes les mangent depuis des centaines de millions d'années, en tout cas depuis que les hommes sont là, clairement, en tout cas des millions d'années. Eh bien, figurez-vous que on va sur les sites, les archéologues vont sur les sites où les hommes ont mangé finalement des fruits de mer, retrouvent des coquilles anciennes et lisent exactement la température, la salinité, les courants, etc., qui se passaient il y a des milliers d'années.
Ils arrivent à dater, quoi.
Ils arrivent vraiment à dater. Et ça, c'est absolument incroyable. Et cette recherche continue. Donc, ça veut dire qu'on a au fond de la mer un observatoire météo et climatique extraordinaire, vivant, qui enregistre, encore une fois, hein, c'est vraiment au quart d'heure près, mais c'est inouï, c'est comme si on avait placé un détecteur depuis des milliers, des dizaines de milliers d'années, des millions d'années dans l'océan pour avoir cette information. Et dernière découverte que je trouve extraordinaire, parce que la coquille, finalement, c'est 4-5 ans de vie, on la cultive, entre guillemets, mais les scientifiques ont découvert, alors d'abord dans la rade de Brest, l'amande de mer qui, elle, vit beaucoup plus longtemps, entre 70 et 80 ans, donc là, on est une information vraiment très claire et très typée sur ces décennies. Et du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, la palourde noire qui, elle, vit 500 ans. Et là, vous avez...
On
la mange, je crois. Ouais.
Elle doit être ferme.
Elle est ferme.
500 ans, ça doit croquer sous
la dent. Il y a de la mâche. Hein.
Ça veut dire que quand on la pêche et qu'on la récupère, alors on peut lire les 500 dernières années d'histoire du climat
magnifique.
Dans l'océan. Et ça, c'est quelque chose de formidable.
J'achète ça, Coco.
J'achète ça, Coco. Vous n'avez pas le droit de révéler pour qui vous votez.
Non, non, mais ça me plaît.
Attention, attention. N'oubliez pas que le sujet sur l'archiduchesse Bidule était très intéressant.
Mais il était
aussi.
Très intéressant. Et aussi la viande et aussi le cinéma avec Polanski.
Exactement, avec Polanski et Charrier. Alors, Laurent Mérieux, on parlait tout à l'heure, je faisais une blague sur les bibes gourmands, les étoiles du Michelin. Le Michelin, la nouvelle édition du guide Michelin 2020 est sortie récemment. Il y a une nouvelle catégorie, le nouveau label, en tout cas, gastronomie durable. Pour vous, c'est du marketing. Le Michelin est obligé de suivre l'air du temps ou c'est intéressant.
Bah, ils suivent l'air du temps parce que c'est vrai qu'ils avaient eu un côté conservateur et un petit peu dépassé ces dernières années, le Michelin, on va se dire la vérité. Mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui une jeune génération de chefs qui arrivent partout en France, dans nos régions, qui ont un vrai attachement à leur territoire. Ils ne parlent plus de terroir, ils parlent de territoire, vraiment, la saison, le local. Donc ces chefs-là, ce n'est pas du flan, ça, justement. Ils cuisinent vraiment en faisant attention à leur environnement, à l'empreinte écologique. Non, non, c'est bien qu'elle arrive, cette récompense. C'est une sorte de macaron vert sur 50 restaurants. Il y a 50 restaurants qui ont reçu ce label. Belle, ouais.
Laurent Mariotte reste avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Je ne sais pas vous les amis, mais moi ces histoires de coquilles Saint-Jacques m'ont mis en appétit. Il est temps de passer de la théorie à la pratique avec notre expert gastronomique à nous. C'est quelqu'un que Laurent Mariotte connaît très bien puisqu'il bosse dans son émission du samedi et qui fait l'objet de grands débats hors antenne avec nos invités.
Je ne sais pas comment il est physiquement.
Il va arriver.
Il n'est pas gros comme Obélix, mais en vrai, c'est un miracle qu'il ne soit pas gros.
Il n'est pas maigre non plus.
Je n'ai pas dit qui c'était. Ça se trouve, c'est Perico Légas. On va voir.
16h, 18h.
L'équipée sauvage.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
À l'heure du consommer moins, consommer mieux, de l'antispécisme, des végétariens prosélytes, des végétaliens militants, voire même des véganes activistes, deux choix s'offrent à nous. Soit embrasser la tendance, soit en prendre l'exact contre-pied en recrutant Olivier Pouls, l'aspirateur à paupiètes de Namur. Un grand amoureux des animaux, mais en sauce.
Ben, moi, je vous fais le choix de veau. Une viande qui se prête particulièrement bien.
Vous avez déjà vu un veau?
Oui, ouais, bah oui, j'en ai
déjà mangé aussi.
Ça vous
attendrait
pas. Bah, ma foi, quand il est découpé en petits morceaux.
Oui, bon, d'accord. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour mon cher Laurent.
Bonjour mon cher Olivier.
Je crois effectivement que vous connaissez assez bien Laurent Mariotte, chez qui vous officiez le samedi dans la table des bons vivants, Olivier. Ce qu'on sait moins, c'est que vous avez démarré ensemble sur une télé locale d'Épinal. Vérité ou légende urbaine?
Non, non, c'est vrai, on s'est connus il y a 25 ans avec Laurent dans les Vosges.
Au moins, oui. Moi j'étais sur la radio locale de Philippe Seguin et lui travaillait dans la chaîne de télévision.
Et
il y a 30 ans même.
Autour de quel plat s'est faite la rencontre?
Ah ben ça, je m'en souviens plus. Peut-être le plat dont je vais vous parler dans un instant, peut-être une salade vosgienne.
Ah oui, avec un peu de Munster.
Ah, pourquoi pas, ah. Ouais. Non mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas dans la gastronomie, moi non plus. Et 25 ans plus tard, on se retrouve effectivement dans la même cuisine en quelque sorte. Et on a toujours eu envie de travailler ensemble, c'est vraiment un grand plaisir.
Mais vous partagez quand même déjà des grandes soirées arrosées.
Ah oui, on en allait chez Lulu au Spinagrill, qui était la plus mauvaise pizzeria mais la moins chère d'Épinal. Et nous y allions régulièrement et on mangeait des salades vosgiennes façon pizza là pour le coup. Voilà.
C'est ça, arrosé de pichets de vin indéterminé.
C'est ça.
Oh mon Dieu.
On dit souvent c'était mieux avant. Enfin, c'est vraiment la mode du c'était mieux avant, les repas de famille, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que je disais tout à l'heure sur le mode de la plaisanterie, les véganes, les sans gluten, les sans lactose, c'est plus compliqué d'organiser un dîner, de réunir les gens autour d'une table? Est-ce que vous comprenez les gens qui disent moi je mange pas de gluten ou pas de lactose? Ou est-ce que vous trouvez dommage finalement cette tendance où chacun se prépare son petit plat dans son coin avec ses restrictions alimentaires?
Il faut respecter les goûts et les tendances alimentaires de chacun. Moi ce qui va plus c'est quand par exemple certains véganes, pas tous évidemment, mais vont mettre du sang sur les boucheries, vont être agressifs, violents, foutre le feu à des exploitations. On l'a vu, ça existe ça. Donc là je dis stop, il y a un truc qui va plus du tout. Mais qu'on respecte les croyances et les tendances alimentaires de chacun, mais c'est vrai que de faire un vrai repas de famille aujourd'hui, ça devient compliqué comme vous dites. On mange surtout sans mais plus avec, sans gluten, sans lactose, sans ceci, mais retrouvons le goût de manger avec plaisir et entre copains. Et évidemment qu'il y a des gens intolérants au gluten et au lactose, mais il y a plein de gens qui suivent le courant et les modes. Moi, j'ai vu des gens au restaurant demander au serveur : je suis sans gluten, il n'y a pas de poisson dans le gluten. Ben non, il n'y a pas de poisson dans la sole. Non, ben voilà. Donc, si elle était meunière, au pire, oui, mais non.
Non, mais c'est, voilà. Ce qui est inquiétant, c'est que les gens s'engueulent à table aujourd'hui. Alors qu'avant, la table, c'était vraiment l'endroit où tout le monde se retrouvait pour rigoler et communier en quelque sorte. Et là, maintenant, on n'arrive pratiquement pas à faire un repas sans s'engueuler à propos de ce qu'il y a dans l'assiette. Et ça, c'est triste.
Il faut être malin, il faut combiner, justement. Le vrai truc d'aujourd'hui, c'est de savoir faire plaisir à tout le monde en prenant en compte, justement, les goûts de chacun. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on a tendance à plus s'engueuler. Moi, je vois récemment un dîner ensemble. On est une femme, on ne citera pas, hein, mais qui ne mangeait pas de fromage, par exemple. C'est ennuyeux, c'est une soirée raclette. Bon, là, vraiment, elle gâche la soirée, voilà, on ne la citera pas. Laurent Mariotte reste avec nous, car pour rien au monde, il ne raterait Délices in Extremis, la recette futée et facile de l'aspirateur à paupiètes. Qu'est-ce que vous allez nous concocter ce soir, Olivier?
Dans un instant, une salade vosgienne, mais avant, j'ai un petit cadeau pour Laurent en souvenir de ses années d'Épinal.
Ah oui, voilà. Des bonbons des Vosges et les vrais, hein, pas ceux qui sont marqués la vosgienne et qui sont fabriqués en Espagne. Ça n'a rien à voir.
Alors, ça, c'est des vrais, c'est une info d'une véritable fabrique à bonbons dans les Vosges.
La confiserie des Hauts-de-Vosges, qui est un endroit magnifique dans les hauteurs vosgiennes.
On les salue, ils peuvent nous envoyer quelques boîtes, qu'on se fasse une idée.
C'est de la violette, c'est pas du sapin. Vous n'avez pas trouvé de sapin?
Non, j'ai pris violette.
La violette, c'est Toulouse, hein, mais je prends de la violette.
Ils vont réussir à s'engueuler. Eva,
mais oui.
Si nous jouions.
Mais oui, carrément. Vous rêvez de voir Angèle en concert? Oui. Vous invite au prochain concert d'Angèle. C'est à Paris, à l'Accor Hôtel Arena, le 21 février, avec la personne de votre choix. Pour cela, vous tentez votre chance en envoyant Angèle par SMS au 739-21, 75 centimes plus le coût du SMS. Deux SMS pour jouer. Vous vous dépêchez parce que le tirage au sort, ça s'arrête demain soir. Voilà.
Avant d'aller l'avant en concert, je vous propose d'écouter son dernier titre, Ta Reine, Angèle, sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'Équipée Sauvage. Mathieu Noël.
Comme une apothéose dans cette Équipée Sauvage spéciale Mangez Mieux, Laurent Mariotte, je vous propose de découvrir la recette qu'a imaginée pour vous votre collègue et ami Olivier Pouls. Une salade vosgienne, hommage à vos débuts en télé à Épinal, période bénie de votre jeunesse où vous faisiez les 400 coups. On ne peut évidemment pas évoquer tous ces souvenirs, vos femmes nous écoutent. Mais disons, mon cher Laurent, qu'à l'issue de soirées bien arrosées, au petit matin, vous aviez l'habitude de retrouver Olivier...
désossé, farci et enroulé, confit dans une sauce au vin rouge et aux échalotes.
Toute une époque. Jetons un voile pudique sur ces nuits vosgiennes borderline pour nous concentrer, Olivier, sur la recette du jour. Une salade vosgienne, justement.
Bah oui, mon cher Laurent, j'imagine que vous avez encore le goût. Peut-être que vous la faites encore régulièrement pour vous rappeler vos Vosges natales.
Oui, je fais les pissenlits à la chaude merotte aussi.
Ah oui, ouais, c'est très bon aussi.
C'est bon, c'est une vinaigrette chaude.
Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Je vous propose la recette de cette salade vosgienne, mais je ne vais pas vous l'apprendre, mais je vais l'apprendre à tous les gens ici dans le studio, et puis sans doute à une partie des gens qui nous écoutent. Au départ, une belle frisée, hein, qu'on va acheter évidemment, non pas déjà dans un sachet en plastique, mais qu'on va acheter chez un imprimeur, qu'on va laver soi-même. Une belle tranche de lard.
Qu'on va acheter pareil chez le boucher.
Chez le boucher, pas des lardons en barquette. Hein, une belle tranche de lard qu'on va débiter en petits morceaux. Un œuf bio de préférence. Un peu de crème fraîche. Un petit peu de vinaigre de vin. Des croutons, des petits croutons. Alors là, vous avez récupéré du pain que vous avez un peu rassis. Vous allez simplement les poêler dans un tout petit peu d'huile. Ça fera de délicieux croutons. Et puis l'idée, surtout, le secret de cette salade vosgienne, c'est la sauce. Alors, l'œuf, on va le cuire 7 minutes, qu'il soit entre mollet et dur, hein, que le jaune soit encore un petit peu coulant. On va nettoyer notre salade. On va faire revenir nos lardons. Une fois que nos lardons sont bien grillés, on va déglacer avec du vinaigre. Ça, c'est très important. On va rajouter un petit peu de crème. Moi, je rajoute une petite cuillère de moutarde aussi pour donner encore un petit peu plus de peps. Et c'est cette sauce vinaigrée, chaude et crémée qui va donner toute sa saveur à cette délicieuse salade vosgienne.
La chaude merotte, voilà. Mathieu Noël. C'est ça, la chaude merotte.
Exactement.
Et on a pris une frisée pour que la sauce adhère aux petites parties dentelées de la frisée, vous comprenez?
Oui, parce que c'est réfléchi tout ça. C'est pas du hasard.
C'est pas par hasard, Mathieu Noël, qu'on fait des trucs pareils.
Je vois, mais
et puis après, on va écaler l'œuf.
On
enlève tout simplement la coquille. Hein.
D'accord, dites enlever la coquille, parce que moi, je suis nul. Donc, écaler l'œuf, je vais passer chercher un dictionnaire. D'abord, ça va me faire perdre du temps.
Et on va poser notre œuf sur la salade. Et au moment où on va couper l'œuf, il y a le jaune qui va couler comme ça, et qui va se mélanger avec nos arômes de lardons grillés, de petites sauces un peu chaudes et tout. C'est délicieux, on rajoute les petits croutons, c'est terminé.
Et si on ne reçoit pas Eva, on peut mettre du Munster.
Ah oui, petit morceau de Munster
aussi. Mais moi, ça ne me donne pas envie de cuisiner, ça me donne envie de venir bouffer chez vous, en fait.
Ah bah oui, mais c'est simple.
C'est ça le problème.
Quand vous voulez, Mathieu.
Bah oui,
je sais,
mais c'est mon problème, c'est que j'ai cet accès direct à votre cuisine qui ne m'encourage pas personnellement à cuisiner. Et à la cave, accessoirement, merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants d'un certain Laurent Mariotte.
Ben je serai là.
Et avec plaisir. C'est l'ami de la crème et du beurre.
Quel sera l'invité?
Patrice Lecomte, que nous recevons.
Patrice Lecomte, très bon invité. Vous allez passer un délicieux moment. Europe 1. Une fois de plus, ils ont vaillamment sacrifié leur dignité journalistique sur l'autel de votre savoir. Ils sont quatre, mais il n'y a qu'une couronne de chroniqueur du jour qui repartira à la tête haute, acclamé par ses collègues, qui au contraire ira pleurer toutes les larmes de son corps dans les toilettes du troisième. Alain Sirou, un petit mot sympa à Dutheil.
Tu sais où sont les toilettes, hein, au moins.
Oh, à tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h,
l'équipe sauvage sur Europe 1.
L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Des frissons nous agitent, la sueur perle à nos fronts, notre estomac se noue, c'est certainement que le dénouement est proche et qu'on va savoir qui a été élu chroniqueur du jour, à moins que ce ne soit la salade vosgienne de Pouls. En tout cas, c'est maintenant que tout se joue. Le moment cruel du quitte ou double où nos journalistes ont 10 secondes pour plaider leur dossier devant l'invité. La dernière fois, devant Elie Semoun, ça n'avait pas trop marché pour Alain Sirou.
Peut-être que j'ai provoqué un peu de chair de poule dans votre cerveau archaïque et que j'attends l'œuf en dehors.
Tu te rattrapes bien, mais ça sert à rien.
Alors, pourquoi Laurent Mariotte devrait-il voter pour vous et vos coquilles Saint-Jacques bavardes aujourd'hui?
Oh, parce que quand on fait la cuisine, chaque ingrédient a une histoire. Et là, c'est une histoire originale et je pense qu'on ne l'oublie pas.
Anissa Mbida, pourquoi Laurent Mariotte, qui adore la barbaque, voterait-il pour votre viande de synthèse?
Parce qu'il adore la barbaque et s'il ne veut pas demain avoir de la viande végétale, eh bien, pour utiliser la vraie barbaque, pour utiliser du vrai foie gras, on va utiliser l'agriculture cellulaire.
Je dodeline, je suis pas convaincu.
Mathieu Charrier, pourquoi voter pour vous?
Parce que nous partageons visiblement une passion du cinéma. Vu ma corpulence, je crois que nous partageons aussi une passion pour la nourriture.
C'est vrai.
Et que j'ai eu le courage de ne pas faire une chronique sur la noix de Saint-Jacques dans le cinéma, le steak de veau, nanana. C'est-à-dire qu'ici, on reçoit un critique gastronomique, on lui fait une chronique sur la bouffe. On reçoit.
Oui. Ben, ça va. Non, moi. La stratégie de l'insulte, ça peut marcher. Ça peut marcher. Emmanuel Dutheil, pourquoi voter pour vous?
Parce que comme Mathieu Charrier, j'ai pas eu le courage de changer ma chronique quand on a appris qu'on changeait d'avis. Mais moi, je donne mes points à Sirou parce que j'ai trouvé ça passionnant.
Oh non, la lèche, autre stratégie.
Ça non.
Bah, tout est possible. Tous les coups sont permis.
Il pleure dès qu'il gagne pas.
Tous les coups sont permis ici. Eva, dévoilant d'abord le choix de nos auditeurs.
Ah bah c'est pour le méchant de la bande, c'est Mathieu Charrier qui remporte les deux points.
Les auditeurs
savent. Mathieu Charrier, hein, les auditeurs aiment ça en fait, ouais. Le fiel. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. C'est difficile. Ah vraiment, j'ai pas réfléchi. Je vais le donner à Emmanuel Dutheil.
Encore
ah oui, je vais le donner à Emmanuel Dutheil parce que je trouve qu'il est la seule personne au monde à pouvoir me parler du Grand-Duché du Luxembourg.
Mais est-ce que vous êtes
sans
abonné
que
sur Instagram à la famille?
Non, je n'irai pas jusque-là. Vous n'allez pas me convertir à ce point. Mais je vous ai écouté.
Oh, c'est gentil en tout cas, Mathieu. Je reviendrai avec plaisir.
Bisous, bisous. Mais ici, vous le savez, c'est à l'invité que revient l'honneur et la responsabilité de trancher. Et c'est un couteau japonais. Faut pas l'oublier, Laurent Mariotte.
Très belle lame.
Alors, Laurent Mariotte, qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Alors, les quatre étaient passionnantes, hein, voilà. J'hésite effectivement entre Mathieu Charrier, parce que j'ai bien aimé son éclairage sur l'affaire Polanski et puis sur les Césars qui arrivent, et puis Alain Sirou qui, comme il le dit, a mis une histoire derrière cette belle coquille Saint-Jacques, et une histoire qui nous permet de comprendre la vie d'une coquille Saint-Jacques, ce qui n'est pas rien, grâce à ses micro-sillons. Donc c'est vrai que voilà, je ne décoquillerai plus une coquille Saint-Jacques de la même façon après cette histoire, donc je vais voter pour Alain Sirou.
Ah,
voilà.
Mesdames et messieurs, c'est Alain Sirou qui emporte la 109e journée de l'équipée sauvage. On remercie notre invité, notre camarade Laurent Mariotte, dont je vous conseille vraiment et sans complicité d'antenne le livre, super bien fait, mieux manger toute l'année, 365 recettes, 2020, l'édition 2020 est disponible chez Solar Édition. Merci Laurent d'avoir été avec nous.
Merci Mathieu, merci à toute la bande pour votre accueil.
Merci également mes équipiers du jour, Eva Rock, Olivier Poul, Anissa Mbida, Mathieu Charrier, Emmanuel Dutheil et Tonton Sirou. L'équipe est sauvage, revient demain 16h, tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changé avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipe est sauvage. Grâce à Laurent Mariotte, c'était recettes et compagnie. Demain, vous recevrez la star anti-star Léa Drucker. Salut Mathieu.